Bonjour à toi et bienvenue à cette nouvelle émission de La Réalité Augmentée. Luc Desormeaux, ton animateur, et avec moi cette semaine, mon ami, le monsieur d'Arcade Québec en chef, Stéphane Goulet. Salut Steph!
Salut, salut. J'ai aimé la dernière fois quand on a parlé de... C'était quoi? C'était-tu à Player ou bien c'est sur ton show qu'on avait dit que j'étais comme le podcasteur normal, tu sais, celui qui sort du frigo, que tu amènes avec toi et puis tu ressacs dans le congélateur. C'était quoi?
Je pense que c'était à Player.
À Player, c'est ça.
On était avec Stéphane, puis on disait, toi et deux, t'es comme notre go-to quand on a besoin de quelqu'un. C'est comme, c'est ça. Puis j'avais dit à Stéphane, c'est comme avoir quelque chose dans le congélateur. C'est quand tu en as besoin, tu le sors, il vient, il fait le show, t'as fini, tu le remets dans le congélateur. Puis le prochain, il le ressort du congélateur quand il en a besoin. Fait que
j'ai aimé ça.
Stéphane Goulet, c'est notre Encinoman.
Exactement.
C'est le Brendan Fraser du podcast québécois.
Exactement. D'ailleurs, en passant, je commence à y ressembler là, dans The Whale, là, tranquillement. Là.
Et si, bon, t'es pas mal loin, t'es pas mal plus loin de lui que moi. Tu t'es pas fait plus gros que toi, mon ami.
Je te dirais que je commence, en tout cas, je le sens à l'intérieur. Là, mais c'est toujours ça, fin de l'hiver comme ça, là, je le sens, puis tu sais, à un moment donné, l'été arrive, puis là, je me mets à bouger, puis je le repère. Mais, bon, en tout cas, j'ai 41 ans, là, j'espère que ça va durer comme ça pour le reste de ma vie, mais... C'est louche un peu. Je suis content d'être là avec toi. Un gros merci pour l'invitation encore une fois.
Merci de venir encore une fois. C'est ça comme, j'aime ça t'inviter sur le show. Puis je le sais, là, le monde va trouver. Hein? Il me semble que Stéphane Goulet vient plus souvent que les autres. Ben oui. Stéphane me dit toujours oui quand j'y demande. Fait que, tu sais, c'est ça. Des fois, il faut que tu jongles les horaires. Puis Stéphane est comme tout le temps disponible.
J'essaie de me rendre disponible. Pour vrai, j'aime ça, podcaster. Tu sais, j'adore ça, podcaster. J'espère que ça paraît quand je passe à différentes émissions et tout ça. Donc, j'aime ça, puis j'aime avoir la confiance des gens. Donc, un gros merci de m'inviter encore.
C'est cool. Fait qu'on va arrêter de se faire des petites liches-liches, puis on va commencer le show. Il me regarde avec des petits yeux. Bon. Steph, tu vas commencer avec... Donc, c'est l'émission 384 de La Réalité Augmentée. Puis Stéphane va commencer avec quelques nouvelles. Puis après ça, j'ai deux jeux cette semaine. C'est des jeux VR dont je vais vous parler. Les deux disponibles sur Steam ou sur Oculus. Puis il y en a un qui est disponible sur PSVR 2 aussi. Fait que ça fait une PSVR 2. Si vous êtes une des cinq personnes qui a une PSVR 2, non, il y en a plus que ça, là. Mais ça fait un jeu que vous allez pouvoir vous procurer aussi. Mais on va commencer avec les nouvelles et M. Stéphane Goulet.
Yes. Donc, la première nouvelle, probablement une des plus grosses nouvelles, mettons, de la décennie, je te dirais. Mettons une nouvelle top-notch nouvelle. Quand ça concerne The Last of Us, c'est toujours gros.
C'est toujours la plus grosse nouvelle, ouais.
Exactement. En tout cas, minimalement la plus grosse nouvelle de l'année. OK, on s'entend là-dessus. Donc, il y a un musée qui se spécialise dans le jeu vidéo qui s'appelle The Strong National Museum of Play. Donc, en gros, le très viril musée national du jeu, donc aux États-Unis, qui a, à chaque année, va placer 4 nouveaux jeux vidéo dans son Hall of Fame, là, donc son mérite de tous les temps au niveau du jeu vidéo. Et on a The Last of Us qui est venu se placer là cette année. Depuis le 4 mai dernier, là, Last of Us fait partie du tout. Et il y a dans les trois derniers jeux vidéo qui ont été placés avec The Last of Us, parce que Last of Us est au-dessus de tout, on s'entend. Il y a
Wii Sports.
Évidemment, merci. Donc, il y a Wii Sports qui a été placé avec The Last of Us, ce qui est quand même pas rien. Hein,
ben, c'est le jeu qui a fait vendre la Wii. Ben, il venait avec la Wii, fait que je veux dire. C'est un peu biaisé de dire que c'est un des meilleurs vendeurs de tous les temps. C'est parce qu'il venait avec la console. Mais c'était un bon jeu. C'était le fun à jouer en famille.
Tout à fait. C'est pas parce qu'il était populaire nécessairement qu'il était pas bon. T'sais, au contraire, excessivement bon. C'est ça.
Ouais, ouais.
D'ailleurs, en passant, le Wii Sports sur Switch, là, je sais pas c'est quoi le nom exactement. Je l'ai acheté dans le temps des fêtes.
Okay.
J'ai pu y jouer avec les enfants de ma copine. Puis pour vrai, là, j'ai trippé à côté. Là. Si vous avez des jeunes à la maison, avec les Joy-Con, ça roule parfaitement bien. Pour vrai, jouer à ça, ça vaut la peine. Là. Vraiment, c'est super le fun. Les keys, d'ailleurs, en particulier, là, sont vraiment, vraiment le fun à jouer.
Ouais.
C'est trippant. Pour vrai, c'est super trippant.
Okay, cool.
Sinon, les deux autres, tu as eu un jeu de Barbie que je ne connaissais pas. Donc, Barbie Fashion Designer de 1996 sur CD-ROM à l'époque, donc sur PC. Le PC de l'époque, paraît-il que c'était un bon jeu. Je sais pas si tu as joué à ça, Luc.
Non, pas du tout. Non. Mais la chose, c'est que c'était peut-être pas un jeu qui était excellent, mais c'est peut-être un jeu qui a fait avancer une certaine technologie. Puis dans ce temps-là, c'est qu'on était comme au début des graphismes plus digitaux, puis des animations, puis ça. Fait que peut-être que ça l'a déclenché une nouvelle mode dans le jeu vidéo, mais non, j'ai jamais joué à ça.
Peut-être j'irai voir éventuellement c'est quoi, là, mais pour l'instant, c'est en tout cas, paraît-il que c'était top. Sinon, okay. Le dernier, un jeu de 1970 qui s'appelle simplement Computer Space. Là, j'ai aucune idée de quoi on parle. Donc, vraiment un jeu très, très, tu sais, à la base du jeu vidéo, j'imagine, là, qu'on a voulu venir récompenser.
70, c'est, tu parles probablement d'un premier jeu vidéo.
On est au début, début.
Ouais, c'est ça.
Mais quand même, tu sais, The Last of Us qui vient se coller après ces trois autres titres-là, c'est quand même très, très bien. Et ils ont voulu spécifier aussi qu'ils parlaient de la version 2013 du jeu. Donc, vraiment la première version du jeu sur PlayStation 3.
Ouais, parce que ça reste un chef-d'œuvre pareil côté histoire. Puis, tu sais, oui, dans le remaster, on a amélioré les graphismes, puis on a amélioré un peu les contrôles, mais ça reste que ça change pas l'histoire, puis le narratif, puis tout ça, là. Fait que c'est ça, probablement, qui a gagné le prix et non pas juste, ben, on va améliorer, tu sais, les graphiques, puis un petit peu le mécanisme, là.
Rappelle-toi que The Last of Us, le premier, là, en 2013, OK, il y avait eu une démo avec God of War, le troisième, je crois. Donc, quand tu achetais God of War, tu avais une démo de The Last of Us qui venait avec.
Okay. Donc,
6 mois avant la sortie, là, genre quelque chose comme soit en décembre, novembre, quelque chose comme ça, parce que le jeu était sorti en juin de mémoire de The Last of Us. Là. Donc, moi, j'avais refait la démo et refait la démo et refait la démo 1000 fois. Là. Quand le jeu de The Last of Us est sorti, je me suis lancé à côté. Là. Donc, tu vois, j'étais comme un early adapter de The Last of Us. On dirait qu'il m'a parlé, Joel. T'sais, il m'a dit, genre, aime-moi, je vais t'aimer moi aussi, ou quelque chose comme ça. En tout cas, peu importe. Donc, c'était merveilleux à l'époque d'avoir ce jeu-là. Pour vrai, il venait vraiment révolutionner quelque chose. Donc, je pense qu'il mérite sa place.
Oui, c'est sûr. C'est sûr et certain que ça... C'est un des jeux qui va probablement marquer l'histoire, tu sais, dans une couple d'années. Tu sais. J'ai hâte de voir le troisième.
Ah, ça va être malade.
Je sais pas quand on va avoir le droit d'avoir. Ben là, moi, faut que je retombe dans le 2. Là. Je l'ai laissé à une place quand même où tu joues Abby. Là, puis, okay. Je l'ai laissé là. Faut que je retombe dedans. J'ai passé à d'autres choses dernièrement, mais là, je pense que je vais être dû.
Fais-toi plaisir, honnêtement. Puis, mais,
ou le contraire de plaisir.
Ouais,
là,
c'est ça. Fais-toi. Ouais, c'est ça. Ouais.
Fais-toi mal,
mais tu vas avoir du plaisir pareil. T'sais, c'est un peu louche à dire, là, mais pour vrai, c'est... Garde, je te propose de continuer avec Sony.
Ouais.
Qu'est-ce que tu en penses? Good. Sony a dévoilé certains chiffres de vente concernant la PlayStation 5 dernièrement, donc... Quand Sony dévoile des chiffres, ça veut dire qu'ils écrasent les autres. OK, c'est ce que ça veut dire. Donc,
et clin d'œil, Microsoft ne dévoile jamais de chiffres.
Exactement. Par contre, on a des estimés. OK.
Ouais,
donc, si on compare, donc la PlayStation 5 aurait 38 points, presque 4 millions d'unités vendues. Et là, la sortie, bien sûr, était en 2020. Si on recule, si on compare avec les Xbox Series, donc la X et la S, pardon, si on les compare, toujours sorties à 2 semaines d'intervalle, on a des estimés autour de 18 millions. Donc, tu sais, entre 38 et 18 millions, tu as un petit 20 millions de différence, ça commence à faire mal, là, tranquillement.
Et c'est 38 millions la PlayStation?
Oui. PS5, 38 millions. Series, on parle autour de 18,5 millions à peu près, mais encore une fois en estimé. Là.
OK, ben ça commence à paraître. Mais c'est sûr que Sony domine le marché parce qu'au Japon, Sony est plus fort. Je pense même en Europe, Sony est peut-être plus fort. Tu sais, Xbox, c'est vraiment Nord-Amérique, j'imagine. Ouais. Peut-être Europe un peu aussi. Là. Puis on s'entend, il y a une pénurie de vente. Au début, je veux dire, tu ne pouvais pas avoir une console même si tu en voulais une, tu n'étais pas capable.
Moi, j'ai réussi à avoir deux PlayStation 5 dans ma vie, là, tu sais, et les deux, je les ai eus avant le premier Noël.
Okay.
Donc, je suis béni, là, tu sais, je sais pas ce que j'avais, là. Puis après ça, impossible d'en avoir. Tu sais, peu importe, il y a des de mes amis proches qui m'appelaient, tu sais, fais aller tes contacts et tout, j'essayais à côté, zéro open bar. Mais dans les deux, trois premières semaines de sortie, j'ai réussi à en avoir deux. Bon, qu'est-ce que c'est ça? Okay. Pourquoi, là? Puis la deuxième, je l'ai refilé à quelqu'un, à un de mes amis, qui a un enfant autiste et qui voulait vraiment une console pour Noël, c'est vrai, vrai. Là. Et j'ai fait aucune scène avec cette console-là. Là. Je veux dire, même que j'ai perdu de l'argent. Mais reste que j'étais fier, je lui ai remis et j'ai fait l'erreur de lui remettre la version avec un disque. Donc, j'aurais dû garder la version avec un disque.
Ah, toi, t'as la version, pas de disque?
Ouais, moi, j'ai la version sans disque. Ouais. Ah, c'est okay. Ça, okay. Un peu comme un épée. Qu'est-ce que tu veux?
Mais tu vas peut-être pouvoir avoir un disque à un moment donné parce qu'il y a une rumeur que Sony va sortir une deuxième version de la PS5. Puis le disque va être séparé. Fait que tu vas pouvoir l'acheter. Ça va être un disque vraiment USB-C, j'imagine, parce qu'il y a des ports USB-C. Le taux de transfert est plus rapide. Fait que probablement qu'elle va être compatible avec la PS5 sans disque. Parce que c'est vers ça que Sony veulent s'en aller. Là. Puis, tu sais, à un moment donné, ils vont mettre à jour le firmware. Parce qu'il y a des gens sur YouTube qui ont essayé de prendre un disque Blu-ray ou qui ont essayé. Je ne me rappelle pas comment ils se sont arrangés, mais ils ont branché un disque dans PlayStation sans disque, puis elle ne le reconnaît pas. Okay. Fait que probablement que les ports USB sont pas ouverts à des accessoires comme ça. Mais c'est sûr, 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 la journée que Sony va sortir une autre console, ça va être la Pro qui va avoir un CD à part ou ils vont ressortir une autre version de la PS5, tu sais, plus slim peut-être, avec un disque à part. Puis après ça, ils vont sortir la Pro, tu sais.
Au début, ça m'a vraiment un peu agacé parce que j'avais plein de jeux de PlayStation 4 que je voulais jouer, mais maintenant, ça m'agace plus pour deux scènes parce que j'achète tout en numérique puis c'est tout, là. C'est pas très grave, là. J'ai acheté, par contre, un disque dur de plus, là, tu sais, donc un SSD, là, pour mettre dedans.
Pour mettre dedans,
c'est ça. Puis j'ai attendu un peu qu'il descende, là. J'ai mis un Tera dedans puis ça a bien été, là.
Ouais, donc, j'ai fait pareil.
Bon, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Normalement, aux alentours de 120-130$.
J'ai payé 100$ à rabais sur Amazon. Regarde, donc on parle de 38 millions de PlayStation 5 de vendus, autour de 18,5 sur les Series. Là, on parle de X et la S, tu sais, toutes confondues.
Ensemble, ouais, c'est
mais
ça.
Mais si on compare avec la Nintendo Switch, qui est encore en marché, mais qui est sortie comme 3 ans d'avance, là, on dit que la Switch aurait vendu un peu plus de 120 millions de copies, imaginez. Donc, tu sais, vraiment, elle domine présentement le marché des consoles actuelles, là, clairement. Là. Et si vous vous posez la question, quelles sont les consoles qui ont vendu le plus dans l'univers de la console? On parle de la PlayStation 2 là, qui a vendu 155 millions de copies. Là, donc, on est loin avec notre maigre 38 millions pour la PS5. Là, la PS2 à l'époque est sortie en 2000, en a vendu 155 millions. C'est la console la plus vendue de tous les temps.
Ouais, mais la PS5 est encore jeune dans sa carrière de console. Elle va être encore là pour plusieurs années. Là.
Oui, tout à fait.
Fait qu'elle va s'approcher de la PS2, mais la PS2, c'est parce que tu as eu la PS2, tu as eu comme trois modèles de PS2, si je me rappelle bien. Oui. La Slim, c'est probablement vendu comme des petits pains chauds, elle était pas chère, il y avait des jeux incroyables là-dessus, là. Je veux dire, les God of War, puis tu sais, je veux dire, il y a eu des gros titres à PlayStation 2. Puis à la fin, elle était pas difficile à hacker, la PlayStation 2. Fait que,
y a-tu
des gens qui se sont achetés une PlayStation 2 parce que, tu sais, tu pouvais facilement mettre un DVD de PlayStation 2 dans ton PC, faire une copie un pour un, puis si ta PlayStation était hackée, ça roulait. Fait que, tu sais, d'après moi, il y a des consoles qui se sont vendues parce que, pour ça, tu sais. Pas que le monde n'achetait pas des jeux originaux puis des jeux plein prix, mais je suis sûr, certain qu'il y a plein de monde qui se sont achetés des consoles juste pour les hacker puis jouer des jeux copiés. Là.
Clairement, clairement. C'est... Puis si tu veux, mettons, comparer avec la PS4 qui est sortie en 2013, c'est ça, 2012, 13, 13, dans ces coins-là.
Ouais.
Donc, 117 millions de consoles vendues à date. Donc, 117, c'est quand même beaucoup, là, c'est énorme. Là. Donc, tu sais, on parle de non, mais PlayStation, c'est des vendeurs de consoles. C'est pas compliqué, là, à cause des exclusifs. Là, ils dominent pour l'instant. C'est le double des autres. Donc, est-ce qu'ils vont continuer? J'imagine que oui.
Ouais, c'est ça. Puis la PlayStation 2 est sortie quoi en même temps que la première Xbox?
Je pense qu'il y avait un an de décalage, ça se peut-tu?
Ouais, mais tu sais, ils ont compétitionné comme un peu ensemble. Fait que c'est sûr, certains Sony avaient déjà un nom sur le marché du jeu vidéo quand Xbox est arrivé. Puis je pense que ça a resté, tu sais. T'as des fanboys, t'as du monde qui jamais vont s'acheter une Xbox parce qu'ils PlayStation, t'as du monde qui sont Xbox qui voudront jamais rien savoir de PlayStation, t'as du monde qui navigue d'un à l'autre, tu sais. Si t'es gamer, t'sais, si t'es vraiment gamer, je parle pas de ceux qui ont une console ou l'autre, sont pas des vrais gamers, mais tu vas vouloir jouer des exclusivités des deux bords, tu sais.
C'est sûr que si tu es vraiment un gamer sérieux, ça te prend, les trois. Ça te prend Nintendo pour les exclusivités Nintendo, les first party. Ça te prend ça te prend PlayStation, encore une fois, pour les exclusivités. Puis Xbox, ben, ils ont pas tant d'exclusivités, mais ils ont tellement une interface de fou en termes de jeux en ligne que ça te prend ça. Donc, moi, c'est ce que je vais chercher en achetant les trois. Là.
Mais tu sais, Xbox, présentement, c'est qui m'a dit qu'il y avait... Je me rappelais pas qui... Ah, c'est quelqu'un de la famille un peu éloignée dans le temps... Pas dans le temps des fêtes, mais j'y ai parlé dernièrement. Puis lui, il s'est acheté une télé Samsung. Puis dans la télé Samsung, il y a l'application Xbox pour le streaming. Ouais. Fait que c'est juste... Il se paye un abonnement Ultimate. Il a même pas besoin d'Xbox. Il joue sur sa TV.
Direct. C'est ça, ouais. Ça, c'est malade.
Fait que le futur, c'est ça. Le futur, c'est... Parce qu'on s'entend, là, Xbox, ils ont une nouvelle Xbox là, tu sais, SX. Il y a la PlayStation 5. On va probablement avoir une PlayStation 6. On va probablement avoir une Xbox série XX puis SS parce que Xbox sont pourris d'un nom, là, on va se le dire. Puis après ça.
Triple X qui vont mettre Triple X.
Avec une face de Vin Diesel.
Vin Diesel dessus, ça va être malade.
La console en forme de tête de Vin Diesel, tu sais. Puis. Mais après ça, j'ai l'impression que les consoles vont disparaître.
Mais clairement, on n'a pas joué.
Parce que t'as plus de jeu, bientôt, tu n'auras plus de jeu physique. Ça va être fini, là. Parce que, gars, le dernier Call of Duty, tu achetais la version physique, tu avais comme un fichier, je pense, de 32 MB dessus ou une affaire de même, 4 GB dessus, 2 GB dessus, puis ça téléchargeait le reste du nuage.
Pourquoi ne pas faire ça? T'sais, honnêtement, ça change. C'est ce qu'il faut que tu fasses. Là, pourquoi? Ben, c'est une licence que tu vas acheter. Le reste, on s'en fout. Là.
C'est ça. Fait que, puis, regarde, Jedi Survivor, le dernier jeu d'EA, c'est marqué sur la pochette, c'est marqué besoin d'un téléchargement. Si tu n'as pas d'Internet, tu ne joues pas au jeu. Là. Fait que, le futur, c'est plate pour les gens qui aiment collectionner des jeux puis les gens qui aiment avoir le jeu physique. Mais maintenant, le jeu physique, ça ne veut pas dire que tu as le jeu. Parce que, ben. Puis de plus en plus, avec ce qui se passe, là, on déroge un peu les nouvelles, mais tu sais, le nouveau Zelda, il est disponible en ligne. La cartouche a été piratée puis a été dompée en ligne. La journée que tu as juste des jeux numériques, ça n'arrivera plus.
Ça. Ben exactement.
Ça n'arrivera plus parce que tu ne pourras pas le télécharger d'avance. Puis si quelqu'un réussit à leaker le jeu d'avance, ben c'est un des journalistes à qui tu l'as donné d'avance pour qu'il teste, c'est qu'il l'a leaké. C'est plus difficile, tu sais, de mettre un jeu, de domper un jeu qui est numérique que de le prendre une cartouche, parce que ça a l'air que c'est super facile de domper des jeux de Switch. Mais je ne sais pas, là, j'ai pas fouillé, mais ça n'a pas l'air être dur parce que Zelda s'est ramassé en ligne comme... Puis le jeu sort la semaine prochaine.
Le 11 de mémoire.
Ouais, puis ça fait une semaine que le monde dise qu'il joue, puis il y a sur Twitter, il y a du monde qui dompe des spoilers, puis la patente. Fait que le physique va disparaître à cause de ça, parce que c'est plus facile à pirater qu'une version numérique. Tu sais, version numérique, là, t'as beau. Le nouveau God of War sort, là, mettons le prochain là, sort, ben. Tu le télécharges, puis ben c'est Sony qui décide quand est-ce qu'ils mettent la Switch à on, puis tu puisses le jouer en ligne, tu sais. Si t'as le jeu complet sur un CD, ben tu le mets dans ta... Puis tu peux probablement le jouer, il n'y a pas besoin de... T'sais. Fait qu'ils ont plus le contrôle sur du contenu numérique. Fait que c'est sûr qu'on s'en va vers ça, malheureusement. Mais, tu sais, fait que t'auras plus besoin de console, à un moment donné, ça va juste payer un abonnement, temps par année.
C'est bien correct de même, anyway, tu vas être capable de jouer tout le temps, mais il faut que ton Internet fonctionne. Il faut vraiment que tu sois connecté à Internet. Donc, on va être un peu plus victime d'Internet, mais on l'est pour le travail maintenant, on l'est pour...
YouTube,
nos autos sont connectés sur le net. T'sais, à un moment donné, il n'y a plus rien qui ne marchera plus sur le net éventuellement. Là, donc, faut se faire une tête par rapport à ça puis l'accepter. Là.
C'est ça. Fait que le futur, ça va vers ça. Fait que d'après moi, peut-être une autre génération de consoles. Après ça va être merci, bonsoir, fini. Puis, de toute façon, souvent, les compagnies perdent de l'argent sur les consoles les premières années pour en vendre, pour vendre des jeux. Ben là, tu vas télécharger une application gratuite puis tu vas lui donner 100$ par année, 125$ par année, 150$ par année pour ton abonnement. Puis c'est un revenu constant.
Mais t'sais, pour le gamer, je trouve ça cool parce que, mettons, exemple, moi, l'été, là, je joue peu ou pas, là, t'sais, à moins qu'il y ait vraiment un jeu épouvantable qui sorte. Mais tu sais, je joue peu ou pas. Ben, tout ce que j'ai investi sur mes consoles, sur les jeux que j'ai achetés et tout, ben, tu sais, je l'ai investi, si tu le reportes sur toute l'année au complet, ben, tu sais, ça fait quand même beaucoup d'argent par mois. Tandis que si, mettons, je coupais complètement mon, tu sais, mon gaming pendant l'été, un peu comme je fais, moi, je le fais là, présentement avec, mettons, les différentes plateformes de films, séries et tout. Là.
Ouais.
Moi, je ne paie pas jamais en continu pour rien. Là, okay? C'est un mois. Après ça, je me déconnecte. Un mois, je me déconnecte. Puis pendant ce mois-là, je suis dédié. Là, tu sais, je me donne. OK?
Ah oh ouais, donc, ouais.
Tu sais, je l'ai fait. Exactement. Puis je l'ai fait dernièrement avec Disney+. Et là, tu sais, dans des derniers shows que j'ai passés où on pouvait parler de télé, puis de série, puis tout, ben là, je me suis donné à côté. Après ça, hop, j'ai complètement arrêté. Donc, je fais ça tout le temps. Tu sais. Fait que je me dis que je pourrais faire la même chose avec le gaming. Ce serait relativement
ouais.
facile, honnêtement.
Ah oui. Tu pourrais le faire au mois au lieu de l'année, puis l'été, t'en prends pas. Fait que,
c'est ça. Ou si t'as une rage, t'en prends un mois, mais une gang, là, puis mettons, tu te dis, OK, là, ce mois-ci, je donne ça à Sony. Bon, ben là, go, là, je vais tous les jouer les exclusifs de Sony, je me lance, puis let's go, tu sais. Pourquoi pas? T'sais. Donc, c'est suffit juste d'être responsable par rapport à ça, puis ça va te coûter beaucoup moins cher pour vrai. Là.
Ben, c'est ça. Puis c'est juste de, tu sais. Faut que le jeu tombe sur le service de streaming la journée qui sort. Parce que présentement, mettons, tu sais, tu peux pas jouer au dernier, tu sais, je sais pas, mettons, Last of Us Part 1, il est peut-être pas sur le PlayStation Plus, il l'est peut-être, là, maintenant.
Ouais, mais c'est pour ça que j'aime la formule de Sony, de Microsoft, pardon, qui va justement te permettre de jouer à tous les jeux AAA dès la sortie. T'sais, ça, j'aime ça pour vrai. Là. Et c'est pour ça que j'ai tendance à les encourager peut-être un peu plus eux autres que Sony, parce que ton jeu AAA, jour 1, bon ou pas bon, Redfall ou pas, il est direct sur la console, fait que t'es capable de tout de suite d'aller jouer. Là, moi, je me souviens, j'en ai joué là, des jeux, là, je veux dire, à côté. Là, ils n'ont pas beaucoup d'exclusifs, mais quand il en sort un, c'est le fun de l'avoir. Puis il y a des jeux que j'aurais jamais joué.
Ouais, c'est ça. Non, c'est le fun de découvrir quelque chose que tu n'aurais peut-être pas joué avant. T'sais. J'ai essayé l'autre jour Power Wash Simulator. J'aurais jamais acheté ça.
C'est tellement le fun.
Mais c'est ça, tu sais, fait que je vais le rejouer. C'est juste comme je l'ai parti de même un coup, puis j'ai joué un peu. Mais je vais le rejouer, tu sais. Mais c'est cool. Puis c'est relaxant. Tu sais, t'es pas sur le point de mourir tout le temps. T'sais. Mais c'est ça, t'as des bons jeux, puis t'as Redfall.
C'est ça.
T'sais, Redfall va s'améliorer avec les patchs et tout ça, mais ça deviendra jamais un bon jeu parce que le gameplay, ça a l'air que c'est ordinaire, c'est répétitif.
Mais je le disais justement dernièrement, je sais pas quel show exactement, mais je disais, mais il me semble que tu as tout le temps l'air de tuer le même ennemi là-dedans, dans tout ce que j'ai vu. Puis je me suis pas nécessairement ou clairement intéressé à ce jeu-là beaucoup. Là, mais puis les reviews que j'ai vues à peu près partout, c'était tout le temps ça. J'ai tout le temps l'air de tuer le même ennemi. Fait que j'étais comme, bon, ben, au moins, ça a l'air d'être vrai. Les quêtes sont à revoir. Il y a pas mal de stock à revoir, honnêtement, dans le jeu. Là. Puis c'est un 20 heures de jeu assez vide. Mais je suis persuadé que s'il n'y avait pas tant de bugs, de jouer en gang, même si tu tues tout le temps le même ennemi, t'aurais du fun pareil.
Ça pourrait être cool. Ouais, ça pourrait être cool. Mais moi, je peux pas le rouler. J'ai juste une vieille Xbox. Fait que j'ai pas la nouvelle.
Ok.
Ouais, c'est ça. Puis j'ai pas l'intention d'investir. Je pourrais l'installer PC, par exemple.
Oui.
Sur le Game Pass, mais c'est ça. T'sais. Ok, fait qu'on va continuer avec tes. On a dérapé un peu, comme tout le temps. Continue avec tes nouvelles. Après,
Microsoft, continuons avec Microsoft. Ok. Ouais. On a dérapé vers Microsoft, fait que parlons-en. Microsoft a sorti des chiffres de. Tu sais, au fond, à toutes les. Les trois mois, Microsoft est obligé d'envoyer des chiffres à ses actionnaires. Donc, on est en mesure de savoir un peu comment la compagnie va. Puis quand on creuse, on est en mesure d'interpréter un petit peu à savoir qu'est-ce qui vient de Microsoft en général versus de la section gaming qui s'appelle Xbox, évidemment. Donc, Microsoft, au total tout, okay, en trois mois, génère en termes de profit, là, okay, 52,9 milliards de profit. OK?
Ouais.
C'est beaucoup d'argent, OK?
Ouais.
Ça, c'est le coût d'opération en général, OK? Les profits nets, c'est 18,3 milliards en trois mois. C'est quand même beaucoup.
C'est quand même pas pire.
C'est ça. On parle d'une augmentation des revenus complète là, au niveau du cloud. Puis pas juste le cloud gaming, le cloud en général, donc tout ce qui est en ligne. Là,
service Azure, tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de places que vous allez visiter en ligne que c'est Le back-end, le fond, c'est un Microsoft Azure, c'est des serveurs web Microsoft. Ils font beaucoup d'argent avec ça aussi. Là.
Yes. Donc, ça a augmenté de 16% en 3 mois. C'est quand même énorme là, quand tu as une augmentation de 16%, c'est beaucoup. Les revenus reliés, là, ça, on y va un petit peu plus Xbox. Là, donc, les revenus reliés au contenu Xbox puis à tous les services en lien avec Xbox ont augmenté de 3%. Donc, c'est quand même bien. Par contre, il y a une baisse considérable des ventes de consoles. OK? On parle de 30% de moins de consoles si on compare aux 3 mois d'avant. Okay? Donc, le trimestre d'avant. Là. Donc, 30% de baisse en termes de consoles. Et là, ça va, tu sais, ça coïncide clairement avec ce qu'on disait tantôt. Maintenant, tu as des PlayStation 5 disponibles. Donc, il y a quelqu'un qui se demande quelle console j'achète. Il s'en va vers la PS5, clairement, au lieu de s'en aller vers une Xbox. Là, ça a l'air évident. Et il y a quand même une baisse de seulement 4%, par contre, là, des revenus liés à la vente de jeux. Donc, ça, c'est probablement lié justement à ce qu'on appelait au cloud gaming tantôt. Là. Donc, plus t'achètes, quand tu achètes un abonnement, ben, tu n'achètes plus de jeux, mais tu payes l'abonnement. Donc, tu sais, d'un côté, 16% d'augmentation au niveau de des abonnements, mais 4% au niveau des ventes de jeux en baisse. Donc, ça s'explique. Là.
Oui, c'est sûr, parce qu'au lieu de payer, tu sais, si tu regardes logiquement, là, t'achètes, mettons que tu es un fan de Microsoft, puis tu veux acheter Forza, tu veux acheter Halo, tu veux acheter Gears of War, c'est des jeux à la sortie sont 80$, tu sais. Ils vont être 80. S'ils ne l'étaient pas, les prochains vont être 90. Tu veux la version de luxe, 115$, tu sais. Yes. Fait que 115$, c'est... C'est pas nécessairement un abonnement. Ben, c'est un abonnement d'un an à Game Pass console. Si tu veux le Game Pass Ultimate, c'est plus cher que ça, mais quand même, c'est l'équivalent de 2, 3, 4 jeux pour ton année complète, puis tu vas jouer au jeu pareil plus d'autres.
Ouais, clairement. C'est fait, ça. Donc, ton Ultimate, là, il est quoi, 21$, je crois, par mois?
Ouais, quelque chose de même.
Mais aller sur une année, là, tu sais, c'est quoi? C'est, mettons, 250$. Mettons, si on y va flat rate vite de même. Là. Ouais. Donc, 250$, c'est maintenant, là, c'est 2,5 jeux.
Si tu joues beaucoup, ça vaut la peine. Si tu joues un jeu... Tu sais, si tu joues à Call of Duty, puis c'est tout, ben achète Call of Duty. Oui, ça vaut pas la peine que tu... Mais si tu veux jouer à plusieurs jeux, puis toutes les nouveautés Microsoft, tu sais, Starfield... Game Pass Day One, tu sais, yes. Quand il va sortir, le prochain Fable, Game Pass, tu sais, Day One. Forza qui s'en vient à l'automne, cet été, Game Pass. Fait que si tu veux jouer à tous ces jeux-là, ben, ton abonnement vaut la peine. Plus, tu sais, si tu veux jouer des vieux jeux de Bethesda, Fallout, c'est tout là-dessus.
Ah, c'est insane. Fait que... Sans compter aussi Electronic Arts aussi, là, tout leur jeu, tu sais, l'espèce de pass EA, là, la EA.
Ouais, c'est ça.
Et là-dessus aussi, donc c'est insane. Là. Donc, t'en as du stock pour vrai. Honnêtement, la Game Pass, c'est encore le meilleur produit à avoir en abonnement, là, c'est clair. Là. C'est
jusqu'à temps qu'ils augmentent leur prix, ce qui va arriver bientôt sûrement. Là. Mais c'est ça. C'est sûr, si tu compares les deux produits... abonnement, Game Pass surpasse le produit que Sony nous donne présentement. T'sais.
Je pense que tout le monde est d'accord, là, clairement.
Ouais, c'est ça.
Puis une dernière nouvelle, un jeu que j'ai adoré, que j'ai, je pourrais dire même, je l'ai soumis, disons, ce jeu-là, pendant le temps des fêtes, c'est Marvel Midnight Suns. Donc, le jeu qui est sorti juste un petit peu avant les fêtes, justement, donc un tour par tour dans le monde de Marvel. Moi, j'aime même pas le monde de Marvel, pour vrai. Puis j'ai trippé sur ce jeu-là. J'ai dû mettre un 150 heures dessus à côté. On nous annonce... donc, c'est 2K qui fait ça. Il nous annonce que il n'y aura malheureusement pas de version Switch comme annoncé préalablement. Donc, ils ont complètement annulé la version Nintendo Switch. Et je le comprends parce que le jeu, c'était pas le plus beau jeu du monde là, sur PS5, là, parce que moi, je l'ai joué sur PS5. Mais... Je voyais mal comment ils pouvaient virer sur une Nintendo Switch là, qui était déjà en 2017 à sa sortie, la Nintendo Switch, un petit peu archaïque. Là, donc là, je veux dire, on parle d'un jeu sorti en 2022, donc je comprends l'idée. Par contre, la version PlayStation 4 et Xbox One du jeu n'était pas encore sortie, donc elle va sortir le 11 mai. On nous dit que le 11 mai, il y aura aussi le dernier DLC du jeu qui va être mis en ligne. Donc, il y a quatre DLC d'annoncés, donc c'est le quatrième. Tu connais le personnage de Storm?
Oui, dans X-Men.
Yes. Ouais. Donc, c'est Storm qui va être là dans le quatrième personnage qui fait l'objet, justement. Donc, à chaque DLC, il y a un personnage de lié, c'est ça, qui vient justement le joindre l'équipe. Donc, le premier, c'était Deadpool. Le deuxième, Venom. Le troisième, Morbius. Je ne sais pas si on pensait faire de quoi avec le film, là, mais en tout cas. Et ouais. la quatrième étant Storm. Moi, j'ai joué avec Deadpool, avec Venom. C'était super cool, honnêtement. Les DLC sont cool. Par contre, le jeu de base est d'une qualité supérieure des DLC. Là, donc, en gros, t'as le jeu de base, c'est super le fun. C'est vraiment, pour vrai, un super jeu tour par tour avec un système de cartes là, super bien fait. Ça prend peut-être une heure à peu près avant de s'habituer. Là, puis après ça, c'est super le fun, pour vrai. Là. J'ai capoté, j'ai joué là-dessus sur ma COVID là, tout le temps des fêtes, dans le fond. Okay? Par contre, le DLC de Deadpool, il est le fun, mais il était buggé au début. Tu avais plein de bugs, tu savais pas trop comment ça... Tu voyais que ça manquait d'amour un petit peu. Là. J'y ai rejoué dernièrement, là, tu vois qu'ils ont vraiment, vraiment refait le tout. Là. Ils ont vraiment redonné de l'amour à Deadpool. Et dès le deuxième DLC, c'est un petit peu mieux. Donc, j'ai pas essayé Morbius. Et éventuellement, je vais essayer Storm, évidemment, là, parce que j'ai acheté la passe
saisonnière, ouais,
c'est ça. Mais c'est un jeu qui, si vous aimez les tours par tour, pour vrai, là, garochez-vous. Là, okay? Ce jeu-là, je l'ai vu autour de 50$ une fois de temps en temps. Là, puis pour vrai, à 50$, là, c'est tu te lances, mon ami. Là, tu te lances. Par contre, pense pas que c'est un jeu tour par tour du genre XCOM. Tu sais, le tour par tour est monté sur une base assez spéciale. Il faut aimer la base, mais c'est un petit peu difficile à comprendre au début, mais quand tu l'as compris, il y a beaucoup de stratégies à avoir, mais c'est pas du position. Il y a un petit peu de positionnement, mais pas comme dans, mettons, les XCOM de ce monde-là. On est vraiment plus dans les super-pouvoirs puis la synergie entre les pouvoirs. Là. Donc, okay. Voilà un peu plus comme un jeu de cartes avec un petit peu de positionnement, mais avec des super-héros de Marvel. Puis quand tu réussis à faire un super comme combo de fou, là, c'est tellement le fun, là, c'est tellement satisfaisant. Puis l'histoire est super cool. Pour le vrai, là, c'est malade. Et je vous mets au défi de faire un personnage, parce que tu as un personnage que tu joues qui est Hunter. Donc, je ne crois pas que ce soit un Marvel connu. Là, et tu le designes comme tu veux, OK? Et le mien est vraiment laid, là. Je vous mets au défi. Et contactez-moi, je vous enverrai des photos de mon Hunter, mais pour vrai, il y a du pinch, il y a du roux, puis il y a de l'afro dans mon affaire. Là.
OK, c'est pas un beau bonhomme. C'est...
Non. Ben, il est beau dans sa laideur, tu sais.
OK.
Et c'est parce que tu le vois tout le temps, c'est un peu à la Mass Effect où, tu sais, il parle toujours avec tout le monde. Fait que c'est ça qui est encore plus cool de le voir laid, tu sais, c'est que il est toujours présent, puis il est toujours en train de donner son avis, puis tu sais, de façon convaincante, là, tu sais, c'est malade. Pour vrai, c'est vraiment malade. C'est un excellent jeu.
OK. Je vais peut-être l'essayer à un moment donné, mais j'ai baissé mon backlog de jeux parce que j'en ai trop, comme tout le monde. Là. À un moment donné, je pensais à ça l'autre jour, j'étais en train de vider mon lave-vaisselle. Je me suis dit, tu sais, demain matin, là, pourrais décider que j'achète plus jamais un jeu du restant de mes jours, puis je manquerai jamais de jeu à jouer. Là.
Hey, moi aussi, là. Hey, j'en ai. Ça, c'est sans compter ceux qui nous envoient, là, les compagnies. Tu sais, que je joue, mais tu sais, des fois, j'ai fini pas, tu sais, veux pas. En plus des jeux que j'ai achetés. Puis moi, j'étais un acheteur compulsif. Là. Dès que j'ai pris 3 bières, là.
Ah ouais? Ouais.
Que
les compagnies de jeux vidéo t'aiment.
Ah oui, des fois, je me dis, j'ai acheté ça. Mais voyons donc, toi. Aussitôt qu'il y a un mini rabais, là, moi, je me dis, mais passe pas à côté, voyons donc.
2 piastres de rabais. Ah, je l'achète.
Mais mon Dieu, il devrait appeler ça le rabais de l'épais, là. Le rabais Stéphane Goulet. Puis c'est moi, je me lance, c'est automatique.
À 89, il est cher, mais à 87, c'est mon prix.
De toute façon, ouais. Je l'aurais acheté pareil.
Ouais, c'est ça. Fait qu'on va profiter du 2 piastres.
C'est pour ça que j'ai pas de femme à la maison, c'est pour ça.
C'est ça. Mais tu sais, Humble Bundle, là, je ramasse souvent des Humble Bundle. Oui. Fait qu'il y a plein de jeux là-dedans. Puis des fois, t'as des très bons jeux. C'est quoi, l'autre jour, je regardais. Je dis, ah, ça a l'air cool en VR. Puis là, je clique dessus sur Steam, c'est marqué dans votre bibliothèque. Ah, ben, je l'avais déjà. C'est comme, ah, OK.
Ah ben, qu'est-ce que tu veux? Ben, c'est correct. Merci.
C'est ça. Fait que je vais le jouer à un moment donné.
Moi, tu l'as dit, puis tu l'as pas revendu.
Ben, c'est ça. Il pourrait juste dire, ah, oh, tu pourrais. T'sais, là, tu le vois deux fois, comme. Tu sais, j'utilise une application qui s'appelle Play Night pour garder ma liste de jeux, puis À un moment donné, c'est comme je fais, je ramasse, OK, va checker ma librairie GOG, tu sais, fait que Good Old Games, puis va chercher ma Steam, puis va chercher ma Amazon, tout ça. Puis à un moment donné, je regarde, puis j'ai trois fois la même pochette de jeux, je lis sur chacune des plateformes. Mais Twitch en donne, Epic en donne, tu sais, à un moment donné, Humble Bundle, Prime en donne plein. Tu sais, si vous avez un abonnement Prime, allez de temps en temps voir sur Twitch. Pas nécessairement pour regarder des streamers, mais vous allez avoir des affaires dans votre boîte aux lettres, puis ça va vous dire des jeux.
Il y en a 15 ce mois-ci qui sortent. Il y en a déjà 3 de sorties, toutes des Star Wars. Après ça, t'as le 11 mai, t'en as 4 autres. Le 18, t'as 4 autres jeux. Puis le 25, t'en as encore 4. Je te dis pas que c'est tous des jeux super connus, là, mais ils donnent 15 jeux Prime ce mois-ci sur PC.
Si vous aimez les genres de beat'em up ou les jeux SNK, Samouraï, comment ça s'appelle? Des jeux de combat que SNK sortait à l'arcade, ou des Metal Gear, mais des Metal Slug, des affaires de même, ils en donnent tout le temps des jeux SNK Amazon Prime. Fait que moi, je me suis ramassé Samurai Showdown, je pense que ça s'appelle. Je me suis ramassé, je les ai presque toutes. Je vais toutes les installer sur ma borne d'arcade. C'est des jeux parfaits pour jouer à l'arcade. Moi, toutes les installer sur ma borne d'arcade. Tu sais, c'est des jeux de combat de même. Fait qu'ils en donnent plein, là. Ils ont donné Rogue Squadron dernièrement, un des jeux de Star Wars qui avait sorti sa N64, tu sais. Fait que si vous avez un abonnement Prime, manquez pas ça. Il donne beaucoup de jeux. Il y a beaucoup de cochonneries aussi. Il y a beaucoup de stuff in-game. Là. Moi, je fais juste les débarrasser. T'sais. J'en veux pas ton stock de Fortnite ou de peu importe. Je joue pas à ça.
Non, mais des fois, je me dis, moi, je les ramasse pareil. Puis je me dis, un jour, si je joue, ben je les aurai. Puis je pars.
Peut-être. Mais en tout cas, mon gars a eu des affaires de FIFA 20. Il donnait du stock de FIFA 23, des joueurs ou des habits. Puis, je le ramasse, puis ça se ramasse dans le jeu à mon gars, puis mon gars joue à ça. Moi, je joue pas, là. Mais c'est ça. Mais il y a plein d'affaires, fait que ça vaut la peine. Et si vous êtes gamer un peu, prenez-vous un compte Epic Games, puis votre Prime, allez voir soit sur Amazon Gaming ou sur Twitch, puis ramassez vos jeux, puis ça fait des jeux à jouer. Puis souvent, Epic Games donne des bons jeux aussi. Ils ont des jeux quand même assez intéressants dernièrement.
Epic Games, la particularité, c'est que ça ne te prend aucun abonnement.
Juste un compte.
C'est zéro compte. Quand tu dis Prime, il faut toujours bien que tu ailles l'abonnement Prime. Okay,
ouais, c'est donne, ça.
Maintenant, qui est pratiquement la base de la vie. Là, parce que moi, je veux dire, mon beurre de peanut et ma mayonnaise viennent d'Amazon Prime. Là. Mais reste que, je veux dire, ça te prend quand même un abonnement. Tandis que, c'est ce que j'aime d'Epic, c'est que tu n'as rien à payer.
Non.
Tu fais juste
un compte.
Puis c'est presque. Ouais. Moi, au début, j'étais comme, ben voyons, il me semble que ça marche pas. T'sais. Ben oui, les autres, c'est leur pub, c'est comme ça qu'ils le font.
Ouais, puis j'ai une librairie assez conséquente de jeux Epic, puis je pense que j'ai acheté 2 jeux sur Epic pour de vrai. Là. J'ai acheté Star Wars Squadrons de EA, que j'avais acheté, que vous pouvez jouer en VR aussi. Puis je pense que j'ai acheté Horizon Zero Dawn sur Epic. J'ai 2 jeux que j'ai achetés. Puis le restant, c'est toute ma librairie, c'est tous des jeux qu'ils ont donné parce que c'est 2-3 par semaine, par 2 semaines ou par semaine.
Par semaine, oui, c'est ça. C'est une moyenne de 2 par semaine, puis des fois, tu as des belles découvertes, là, des vraiment belles découvertes. Puis des fois, tu as des gros jeux AAA, surtout, mettons, tu sais, quand tu arrives dans le temps des fêtes ou l'été ou tout ça. Là, ils ont déjà donné, Grand Theft Auto, tu sais. Fait que, imagine.
Ouais, c'est ça. Puis Dying Light récemment aussi, je pense.
Avec
Dying Light.
Les DLC, oui.
Tu sais, fait que c'est ça, cool. ça vaut la peine de temps en temps. Ils ont donné Death Stranding. J'ai ramassé, je le jouais sur le Game Pass, puis à un moment donné, je le vois apparaître gratuit dans l'Epic Game Store. Ben, moi le prendre de là, tu sais.
Quel jeu merveilleux.
J'ai de la misère à embarquer.
C'est un jeu, il n'y a rien comme ça pour vrai.
L'affaire, c'est sûr et certain, dans Death Stranding, t'es sûr et certain que c'est Kojima qui a fait le jeu. Parce que son nom, il est partout.
Mais tu sais, au début, quand ils nous vendaient ce jeu-là, nous disaient genre, vous n'aurez jamais joué à un jeu comme ça. Mais j'étais comme, hey, calme tes nerfs, mon ami. Puis, sais-tu quoi? Ben, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il s'en vante un peu. Lui, il aime ça le dire.
Le jeu, le jeu commence, t'as écrit dit, puis son nom est. Une histoire part, puis c'est comme Kojima partout. Là. C'est comme, ok, ouais, je pense que.
C'est ça, c'est ça. L'équivalent de la masturbation. dans le jeu vidéo. Là. C'est clairement ben, ça.
C'est ça. C'est de l'auto-satisfaction. En tout cas,
exactement. C'est clairement ça.
T'as-tu d'autres nouvelles?
J'en ai plein d'autres. Honnêtement, on pourrait parler pendant des heures, mais tu en as probablement déjà parlé, là, mais en tout cas, c'est très important de nommer le fait que Armored Core 6 va. C'est From Software qui a annoncé ce jeu-là dans les derniers mois. Ouais. Et là, on nous dit la date de sortie le 25 août prochain. Donc, ça va être disponible autant sur Steam que sur PS4, PS5, Xbox One et Series. Donc, mettez ça à votre agenda. Le 25 août prochain, si vous voulez faire de l'écrapou avec des mechas, c'est le jeu par excellence.
Mais c'est pas supposé être un Souls-like. C'est supposé être totalement différent.
Non,
là.
Non, c'est sûr. Non, c'est
le
sûr.
Monde leur a posé la question. C'est comme, est-ce que ça va être comme un Souls? Non, non, ils ont dit non.
Non, c'est tu sais, Armored Core, je veux dire, c'est connu comme franchise.
Non, oui, oui.
Tu te fais des robots, puis tu te pètes la fiole avec des robots. Puis ce qui est cool, c'est la liberté que tu as, là, tu sais, en termes de méca, tout ce que tu peux monter, tu peux te faire une méga structure avec des genres de big chenilles de fou ou te faire quelque chose de très agile qui va bouger super vite et qui va gonner à côté. Tu sais, c'est ça que j'aime, moi, de cette série de jeux-là. Et quand j'ai vu la bande-annonce, honnêtement, j'ai salivé et j'ai mis ça sur ma liste. Là, 25 août prochain, ça va être insane sur PS5. Là. Pour vrai, je pense que je vais mettre des lunettes fumées, un casse à bessic sur la tête pour être sûr de ne pas me péter la fiole. Puis je me garoche à côté.
OK. Au pire, tu viendras nous en reparler.
Oh yes, ça va être le fun.
All right. Je vais faire un jeu. Puis après ça, on va retourner avec toi aussi. Tu vas nous parler quelque chose que vous avez fait à Arcade Québec. Mais je vais aller avec un jeu pour comme couper mes deux jeux puis couper tes deux sujets. Je vais vous parler d'un petit jeu que j'ai eu une clé pour le tester. C'est un jeu en VR qui s'appelle A Night in the Attic. Donc, un chevalier dans le grenier. C'est 13$ sur Steam. J'imagine que c'est à peu près le même prix parce qu'il est disponible aussi sur Quest, le casque. Qui est vraiment à part, là, vous n'avez pas besoin de PC. C'est pas un jeu qui est très, très demandant. Dans A Night in the Attic, on joue le rôle de Geneviève. C'est vraiment l'histoire de Arthur puis tout le kit, tu sais. Fait que, avec, j'imagine, tu sais, l'histoire de la table ronde et tout ça, mais on a Arthur, on a Lancelot, on a, tu sais, Mordred qui est le méchant là-dedans.
Oui, aussi,
fait, moi, qu'on est vraiment dans cet univers-là. Et là où le jeu est intéressant, c'est que c'est un jeu de puzzle. Les deux jeux que je vais vous parler ce soir, c'est deux jeux VR. Les deux sont disponibles sur Steam et sur MetaQuest. Le prochain est aussi disponible sur PSVR 2. Mais c'est deux jeux de puzzle. C'est vraiment deux jeux de casse-tête. Normalement, je ne suis pas gros là-dedans, mais c'est drôle. Les deux jeux que j'ai eus dernièrement, c'est deux jeux VR et c'est deux jeux de puzzle. Dans A Night in the Attic, c'est vraiment un jeu qui est assez simple. On a un plateau. Te rappelles-tu avoir joué quand tu étais jeune, puis peut-être encore aujourd'hui, une bille sur un plateau, puis tu bouges le plateau, puis tu essaies de passer la bille pour ne pas la faire tomber dans des trous.
C'est le fun.
Donc, le jeu est basé là-dessus. Donc, on a Geneviève qui est une bille. On a vraiment un personnage sur le dessus, mais sa base, au lieu d'être des jambes, c'est une bille, puis elle roule. Puis, on bouge le plateau pour la faire bouger sur le terrain. Il n'y a pas de trou partout, mais il faut vraiment l'amener à des places spécifiques. Il faut aussi faire attention pour pas qu'elle tombe dans une rivière. À un moment donné, il y a de la lave, pas qu'elle tombe dans de la lave. Aller chercher des objets. Il faut tout simplement trouver des abeilles. Les abeilles nous permettent d'ouvrir la porte pour passer au prochain niveau, puis nous permet aussi de débarrer le prochain. Pas le prochain niveau, mais il y a comme une grille dans le jeu. Puis pour passer d'une place à l'autre sur le même tableau, il faut débarrer une grille. Puis ça prend deux abeilles, mettons, dans le prochain, ça va prendre quatre abeilles. Quand tu débarres avec tes abeilles, ça rouvre la porte, tu peux passer au prochain. Aussi, quand tu es au menu principal, mettons, entre chaque niveau, pour ouvrir le tiroir où ton prochain niveau est placé, ça te prend un certain nombre d'abeilles. Fait que le premier niveau, c'est facile, ça te prend comme 4 abeilles. Le prochain, ça va être 8 abeilles. Fait que tu ramasses des abeilles dans le jeu, puis tu débarres les niveaux en t'en allant comme ça. On va aussi te donner des outils que tu vas utiliser dans le jeu. Donc, le but, c'est vraiment de passer du début à la fin. T'as ce qu'on appelle des checkpoints. C'est des points de sauvegarde à chaque place où c'est un rond qui est sur le plancher. Tu vas passer dessus, il va s'allumer, puis si jamais... ta Geneviève tombe dans lave ou dans l'eau, elle va repartir là. Ou si jamais tu es pris à quelque part, tu peux reprendre ton personnage, ça va te ramener à ton dernier point, puis tu peux la mettre dessus, puis tu repars.
Okay. Mais, ça, c'est le fun, parce que Mané, dans ce genre de jeu-là, des fois, dans comme, la façon que le design est fait, tu peux rester pris.
Oui. C'est un peu pas le problème, mais ça va arriver de temps en temps, tu vas être pris dans l'environnement, tu vas rester pris entre un arbre et une roche, puis tu peux, peu importe comment tu vas bouger ton plateau.
Il n'y a rien qui se passe.
Tu n'es pas capable de t'en sortir, fait qu'il faut vraiment que tu apprennes, puis que tu la remettes sur son point, puis tu repars de là. J'ai été capable de sortir complètement de la carte à un moment donné, de faire quelque chose que le jeu ne s'attendait pas. Il y avait une grille où ça me prenait des abeilles pour débarrer, puis j'ai comme passé entre un arbre puis une roche, puis je me suis ramassé l'autre bord de la grille sans avoir eu besoin de l'ouvrir, mais là, le jeu, j'étais pas supposé être là, fait que le jeu comme réagissait plus à mes points de sauvegarde ou il déclenchait pas des événements, fait qu'il a fallu que je ressorte au menu puis que je reparte le niveau puis je reparte à zéro. Mais tu sais, c'est un jeu à 13$, c'est un petit studio qui s'appelle Mighty Yell, fait que tu sais, c'est pas un gros studio, fait que c'est un studio de Toronto. Fait que je peux comprendre qu'il y ait des petits bugs dans le jeu. Là, ouais, t'sais, t'sais, c'est un triple A.
Ça se pardonne même pour des triple A. Là, donc,
c'est ça. Mais fait que c'est vraiment le fun. Ton personnage ne meurt pas vraiment. Si tu tombes dans de l'eau ou à un moment donné de la lave, ben tu repars à ton point. Puis tu n'as pas besoin de recommencer le niveau complet. Tu vas repartir à ton point. Il n'y a pas de dialogue vraiment. C'est de l'écriture. Fait qu'il va falloir lire un peu. Tu vas rencontrer Lancelot. Lancelot va te parler un peu, tu vas repartir, tu vas t'en aller. Puis le but, c'est vraiment de battre Mordred au bout du jeu. Je spoilerai pas nécessairement le jeu, là, mais je l'ai pas terminé. Je suis rendu au niveau 10 sur... Il y a 15 niveaux, je pense, en tout. Puis je sais pas où m'en aller. Là. Je sais pas s'il y a quelque chose qui déclenche pas. Ben, c'est tout des puzzles, fait qu'il faut que tu trouves une certaine place, puis... comme je te disais, on te donne des outils. Fait qu'à un moment donné, oui, il faut que tu... Tu sais, au début, on t'explique pas qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Fait que la première fois que je suis arrivé, puis j'ai vu une abeille, puis c'est vraiment... T'es en VR. Fait que quand t'arrives à l'abeille, l'abeille se sauve de toi, mais elle vole dans ton environnement. Fait qu'elle vient comme te gosser en avant de tes yeux. Puis elle redescend parce que c'est vraiment... Tu sais, t'es vraiment là. Puis si tu te reviens de côté, t'es vraiment dans un grenier. En arrière de toi, il y a un vélo, il y a du stock de grenier dans le grenier. Puis là, t'as ta table avec ton jeu.
OK, toi, t'as la table du jeu dans les mains. Là, c'est ça l'idée. Là.
C'est ça. T'as la table, puis là, t'as un petit un petit bureau avec des tiroirs dessus, puis tes niveaux sont là-dedans. Puis là, t'as comme une autre petite place pour serrer des parchemins, parce que dans le jeu, tu vas trouver des parchemins. Puis là, quand t'ouvres le parchemin, vraiment avec tes deux mains, tu vas ouvrir le parchemin, t'as l'histoire qui se développe dedans. Puis là, t'as un petit livre qui, comme un journal, où à chaque fois que t'avances dans un niveau, ça te dit un peu qu'est-ce que tu vas faire dans le prochain. Fait que là, si tu lis le journal, ça te donne un petit peu des indices à ce qu'il va falloir que tu fasses dans ton prochain niveau. Puis on va te donner des outils. Fait qu'on va te donner, à un moment donné, on va te donner un espèce de manette pour tourner, pour mettons, lever une grille. Fait que tu vas prendre la manette dans ta main, tu vas la mettre dans un trou qu'il y a dans le niveau. Puis là, tu vas tourner, puis là, la grille va monter, puis là, ton personnage va passer. À un moment donné, on va te donner un moulin. Fait que là, tu vas mettre ta manivelle, tu vas la mettre dans le moulin, puis en tournant le moulin, ça va faire du vent. Fait que là, tu peux faire avancer un petit bateau avec ton personnage dessus, dans l'eau, pour avancer au prochain niveau. À un moment donné, t'as une espèce de d'arrosoir. Puis, il faut que tu fasses monter le niveau d'eau pour faire monter les plateformes pour pouvoir passer d'une place à l'autre. Parce que, mettons, tu arrives sur une plateforme, là, tu as des petits radeaux sur l'eau pour faire un passage. Puis, ils sont trop bas pour te rendre au prochain niveau. Fait que là, il faut que tu remplisses ta petite arrosoir d'eau. Tu mets de l'eau dans la rivière où ce que tu es. Le niveau de la rivière monte. Puis là, tu peux te ramasser à la plateforme qui était trop haute avant, tu sais. Mais tu vas t'en servir pour, à un moment donné, tu as de la lave, tu vas te servir de l'eau pour refroidir la lave, pour passer ton petit bonhomme dessus pour marcher, pour passer à l'autre place. Mais c'est vraiment drôle parce que, à un moment donné, tu as des fontaines, puis là, tu arrives à la fontaine, puis là, tu dis, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis là, j'ai mon arrosoir, puis là, tu essaies de la mettre dans la rivière pour la remplir, mais ça marche pas. Mais là, il faut que tu prennes le plateau dans tes mains, tu le revires complètement sur le côté pour que la fontaine, au lieu de pisser à terre, ou de se remplir elle-même, elle pisse en dehors du niveau pour remplir ton cruchon. Puis là, tu entends l'eau monter dans ton arrosoir. Puis si tu enlèves ton arrosoir, ça coule sur la table qui est en dessous où ce que tu peux déposer ton plateau de jeu. Puis le plateau de jeu, tu peux le bouger, tu peux le prendre comme avec tes mains virtuel, puis le bouger de gauche à droite, ou tu peux le laisser par terre, puis le joystick de gauche-droite, tu peux l'incliner vers en avant, vers en arrière, de côté. Fait que tu n'es pas obligé vraiment de jouer avec tes bras, tu peux juste jouer avec la manette si tu veux. Fait que c'est toutes des petites choses comme ça. Tu as un marteau à un moment donné pour taper sur un niveau pour. Tu as comme des morceaux de roche. Puis là, si tu tapes sur un, l'autre monte. Puis tu peux les faire bouger comme ça. Fait que là, tu faut que tu amènes Geneviève en haut. Fait que là, tu tapes sur une des roches. L'autre niveau va monter pour que tu puisses passer. Fait que c'est toutes des affaires à découvrir. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour sortir du niveau?
Tu sais? Au niveau visuel, là, toi, tu l'as joué sur Quest, évidemment. Je veux dire, est-ce que tu as besoin d'un PC pour le rouler ou bien juste sur le casque qui roule parfaitement bien?
Ben moi, j'ai la version Steam. Fait que okay. J'ai besoin du PC pour le rouler. Mais il y a la version Quest. Ou okay. Meta, le Meta Quest 2 ou l'Oculus Quest 2 okay. qui existe aussi. Fait que tu peux le jouer sans casque, si t'achètes, sans PC si tu achètes la version pour le casque. Moi, je le joue PC sur Steam. Fait que j'ai besoin de la version. J'ai besoin du PC. La seule chose, ce jeu-là, présentement, est juste disponible, peu importe sur la plateforme que tu l'achètes, est juste compatible avec le casque Quest. Meta est un des finance le jeu. Le nom de Meta apparaît, fait que le nom de Oculus, le casque, apparaît sur la version Steam quand tu pars aussi. Fait qu'ils ont financé le jeu. Fait que présentement, si tu n'as pas un casque Quest, tu ne peux pas le jouer le jeu, même si tu l'as sur Steam. Le jeu ne partira pas.
Okay.
Et il y a du monde qui se plaignait de ça. Le jeu ne part pas, je ne comprends pas. Et même moi, j'ai eu ce problème-là. J'ai un casque Quest, mais quand je joue sur PC, souvent, je vais prendre une application qui s'appelle Virtual Desktop. Et Virtual Desktop va éliminer c'est quoi la version de ton casque quand il parle à Steam. Fait que le jeu partait, j'entendais du son, puis après ça, ça gelait, puis c'était fini là. Fait que pour jouer au jeu, il a fallu que je le parte à travers l'application Oculus sur PC, qui est l'application pour le casque, pour, si tu avais un Oculus Rift, puis tu jouais juste PC, parce que l'Oculus Rift, c'était un casque qui ça prenait un PC. Si je pars Steam à travers ça, là, je peux jouer au jeu.
OK, parce qu'il reconnaît ton casque, c'est ça?
C'est ça. Donc, si jamais vous achetez le jeu, si vous avez un Vive Index, un Steam, comment est-ce qu'il s'appelle en tout cas? Peu importe l'autre casque, HTC Vive, Valve Index, peu importe, vous ne pouvez pas jouer à ce jeu-là pour l'instant. Ils vont le patcher, ils vont le rendre compatible plus tard, mais pour l'instant, ça vous prend absolument un casque Oculus. C'est un peu le bémol si vous avez un autre casque VR, vous ne pouvez pas jouer à ce jeu-là. Mais c'est cool, c'est pas parfait. Comme je dis, il y a des bugs, j'ai resté pris dans l'environnement quelques fois. J'ai eu des bugs visuels, mais j'ai l'impression que c'est le PC sur lequel que je joue qui n'est pas nécessairement assez fort. J'ai un problème au départ sur mon PC principal que je fais du VR avec. J'ai un Ryzen 5 3600, puis j'ai une 3060, puis c'est assez fort pour faire du VR. Mais quand je tombais au deuxième niveau, le tableau était toujours incliné vers devant gauche. Fait que même si je bougeais le joystick, mon personnage s'en allait toujours vers le devant gauche. Fait qu'elle était toujours pris dans le coin. Fait que si je tournais, parce que tu peux, avec tes gâchettes, tu peux tourner la table vraiment, mais là, elle était toujours inclinée dans le même coin pareil, fait qu'elle s'en allait toujours dans le coin qui était devant, à gauche. Fait que là, je me suis dit, bon, le niveau est brisé, fait que je parle au développeur, ben non, on n'a pas vu ce problème-là, pis ça. Fait que j'ai installé le jeu sur un autre PC, puis j'avais pas ce problème-là. J'ai passé le niveau 1, j'ai repassé le niveau 2. Niveau 2, tableau pas incliné, rien. Puis je me suis rendu jusqu'au niveau 10, mais là, j'avais pas le goût de recommencer sur l'autre PC parce qu'il n'y a pas de sauvegarde nuage dans ce jeu-là. Fait que tu peux pas passer d'un PC à l'autre. Ce que tu peux faire avec Steam, normalement, il y a une sauvegarde nuage. Fait que tu joues sur deux PC. Spider-Man, Miles Morales, je l'ai sur PC. Puis je peux le jouer sur n'importe quel PC. Puis ma sauvegarde suit. God of War, c'est pareil. Même si je les ai sur Steam, mais ce jeu-là, tu sauvegardes pas dans le nuage. Fait que fallait que je recommence à zéro, puis ça me tentait pas. Fait que j'ai eu des bugs visuels où de un moment donné, ça venait comme chamoiré. Tu vois mal tes personnages, tu vois mal tes affaires. Fait que là, je sortais, je retournais, puis là, c'était correct pour un petit peu. Mais c'est probablement mon PC, c'est probablement pas le jeu. Mais il est pas 100% optimisé, mais c'est un petit studio. Tu sais, je veux dire, jusqu'à quel point ils peuvent tout patcher rapidement. Mais le jeu est le fun quand même. Pour 13$, si vous avez un casque Oculus pour l'instant.
C'est vraiment pas cher. C'est pas vrai. C'est pas cher.
Ça vaut la peine. Puis à date, si je regarde, j'ai mis... combien de temps j'ai mis dans le jeu? Je peux-tu le voir? Librairie. J'ai mis 5,6 heures dessus. Fait que j'ai mis presque 6 heures. Mais j'ai... Tu sais, le dernier niveau, là, j'ai gossé peut-être 45 minutes dessus pour être capable de... Puis je ne l'ai pas passé.
Ben c'est ça, plus ça va aller, plus tu vas passer de temps à ces niveaux. Là, c'est ça l'idée. Là.
Ouais, mais c'est, je ne sais pas s'il y a juste quelque chose qui ne déclenche pas. Est-ce que j'ai un autre bug style le plateau est toujours penché vers la gauche, mais là, j'ai un événement qui ne déclenche pas. Fait que tu sais, je ne sais pas, puis j'ai pas le goût de refaire 9 niveaux pour le savoir sur mon autre PC. Ou fait que je ne sais pas, est-ce que c'est la fin de mon aventure dans ce jeu-là? Je vais probablement réessayer. Il y a peut-être quelque chose que j'ai pas vu. Mais tu sais, quand je regarde mon petit livre, je te disais, tu as comme un journal qui dit, qui donne un indice de ce que tu vas faire dans le prochain niveau. Ben, je fais ce qu'il me dit de faire. Puis, j'irai nulle part où aller un coup je traverse. Ouais, fait que je
mets reload le je niveau. Puis après, écoute, tu verras. Puis sinon, ben, tu sais, un moment donné, c'est une belle aventure pour un jeu que tu sais à 13$ quand même.
C'est ça. Puis je vais avoir d'autres jeux à jouer aussi. Là. Ben, fait que tu sais, mais c'est le fun. Si ça vous tente d'embarquer là-dedans, petit jeu de puzzle, pas trop complexe. C'est quand même assez facile au début de trouver où on s'en va. Puis c'est pas trop du cassage de tête. Là. Un petit peu, il faut découvrir les mécaniques des outils qu'on te donne. Mais un coup, tu l'as trouvé, tu sais, qu'il faut que tu mettes la manivelle dans le moulin. Puis là, tu tournes. Puis là, tu fais avancer ton bateau. Puis. C'est quand même assez simple. Là. C'est pas trop compliqué. Puis c'est cute. L'histoire, ben, tu sais.
Ouais, mais c'est le fun. C'est le fun. De redécouvrir des classiques sous une autre forme. Moi, j'adore ça, pour vrai. Là, cette mécanique-là des fois qu'un studio fait ça, là, puis c'est souvent les studios, je veux dire, qui sont des indies là, qui vont faire
ça. C'est ça.
De faire redécouvrir une expérience que tu connais déjà, mais sous une autre forme. Moi, j'adore ça, pour vrai. Là.
C'est l'environnement qui est cute. T'sais, t'es vraiment assis dans un grenier, puis t'as vraiment une table en bois en avant de toi avec ton petit plateau en bois que tu vas bouger, puis tu vois le plateau bouger.
Il y a une vibe Never Ending Story. Tu sais, quand il va dans le Tu l'as vu ce film-là?
Ouais.
C'est enfin, tu sais, quand Atriou, là, ben pas Atriou, mais le
Bastien.
Le jeune, là, Sébastien, c'est ça exactement qui va dans le.
Le gars de mon nom s'appelle Bastien.
Bon, ben tu vois, bon, regarde.
Ça vient de là.
Bon, ça vient de là. Bon, tu vois, regarde, je suis dedans à côté. Là. Tu sais, il monte dans le grenier, il ouvre un livre avec des chandelles, il fait la lecture de son livre, il tombe complètement, tu sais, dans le monde. Ça me fait penser à ça. C'est ça qui est cool. C'est vraiment bien. Là.
Ouais, fait que c'est le fun. Fait que si ça vous intéresse, c'est disponible sur Steam ou Meta Quest 2. Essayez ça. C'est pas cher. Vous allez avoir un bon. Tu sais, il me reste 4 niveaux à faire à peu près. Fait que peut-être un 7-8 heures de jeu. Est-ce qu'il y a de la rejouabilité? Probablement pas beaucoup.
C'est pas très bien,
comment dire. Ça, puis c'est un jeu qui tu sais, les gens qui ont de la misère avec le mouvement, c'est pas un jeu qui va te donner mal au cœur parce que c'est vraiment statique, puis c'est facile à jouer, tu sais. Fait qu'un premier jeu, tu sais, un premier jeu VR, quand t'essayes de commencer à t'habituer un peu à l'environnement, c'est cute. Puis vraiment être assis, puis regarder partout dans le grenier avec ton casque, parce que t'es assis dans le grenier, là. Puis des fois, c'est tellement stupide. Des fois, en VR, je me fais pogner, c'est que je suis assis. C'est un jeu que tu peux jouer assis aussi. Il y a beaucoup de jeux VR, t'es obligé d'être debout. Mais c'est un jeu que tu peux jouer facilement assis, parce que t'es assis à la table. Fait qu'à un moment donné, je suis assis, j'ai la table en bois, entre guillemets, en avant de moi. Puis à un moment donné, je dis, ah, OK, il faudrait que j'aille préparer le souper. Fait que j'ai comme enlevé les attaches de mes manettes. J'ai comme des sangles. Tu sais, comme la Wii, il donnait des cordes, des cordons.
Des dragons.
Des dragons. Puis là, j'enlève ça. Puis je m'en allais déposer mes manettes sur la table en avant. Mais il n'y a pas de table en avant, là. Tu sais, si je lâche les manettes, c'est clonk à terre, là. Mais tu sais, sur le coup, c'est comme, OK, je vais mettre mes manettes sur la table. Non, tu peux pas mettre tes manettes sur la table, man, parce que la table, elle n'existe pas pour de vrai. T'sais.
Et c'est tellement rapide comment tu te... J'allais vécu aussi avec le VR un petit peu, là. Comment tu t'as... Tu sais que vraiment, ce que tu as devant toi, ça devient réel assez rapidement. Là, c'est
même fou, si c'est, même si c'est dessin animé un peu, tu as l'impression que c'est là.
C'est ça, parce que c'est... pour toi, c'est un fait que tu as une table devant toi. T'sais. C'est rendu ça.
Puis elle est là depuis 2 heures, parce que tu joues depuis 2 heures.
Ben, c'est ça, exactement. C'est ça.
Fait que c'est ça. Donc, c'est ça pour Night in the Attic. Fait que c'est comme, oui, je vous le conseille. Modérez vos attentes. C'est pas un triple A, mais c'est cute. C'est le fun. Moi, j'ai du plaisir à le jouer. Je vais essayer de finir le jeu. J'aurais aimé ça finir le jeu pour vous en parler jusqu'au bout, mais j'ai pas été capable. Je suis pris dans mon niveau, puis peut-être moi qui est con. Oui, je le sais. Mais peut-être qu'il y a juste quelque chose qui déclenche pas. Ça arrive à un moment donné, quand j'ai fait Bob l'éponge, le dernier jeu de Bob l'éponge, j'avais parlé sur ton show. J'étais arrivé à une palissade, puis il n'y a rien qui arrivait. J'ai sorti, j'ai refait le niveau, puis là, ah, comme le bateau pirate tire sa palissade, puis elle explose, puis après ça, tu peux passer, mais ça n'avait pas déclenché.
Tu sais, c'est arrivé dans les meilleurs jeux, là, tout ça. Là, tu sais, fait que maintenant, puis tu sais, comme j'ai compris, c'est un jeu qui est très récent, là, donc. Avec un petit studio, ça va s'améliorer, c'est garanti. Là.
C'est ça. Fait que, ouais, il est sorti, ça fait pas longtemps. Il est sorti là, peut-être 2 semaines. Mais c'est ça. Donc, c'est tout pour ce jeu-là. On va passer à ton autre sujet. Sur Arcade Québec, vous avez fait quelque chose de cool. Vous avez demandé à ChatGPT de vous monter un show. Qu'est-ce que ça a donné?
Ça a donné ce que ça a donné. Il faudrait que les gens aient écouté. Mais tu sais, honnêtement, okay, normalement, Arcade Québec, on a une formule très établie depuis, je te dirais peut-être un bon 7 ans. Là. On fait tout le temps la même affaire. Okay? Et là, on a décidé de sortir un peu de notre zone de confort, faire monter le show par ChatGPT et d'y aller avec 3 sujets. Au lieu de faire des nouvelles, on a fait 3 sujets différents et on a demandé à ChatGPT de nous monter ces sujets-là. C'est pas mon initiative, vraiment pas, OK? C'est l'initiative des 2 gars qui sont avec moi depuis déjà 8 ans. Donc, Guillaume et Jeff.
Et Guillaume, j'allais dire 2 gars qui n'ont pas de nom parce qu'ils n'en méritent pas, mais je suis content que tu aies nommé, là, j'étais pour te dire.
Guillaume est arrivé avec l'idée initialement en disant, tu sais, je travaille avec ça pour ma job, j'adore ça, tout ça, tu sais. Pourquoi on ne l'intègre pas dans notre projet commun et tout? Jeff avait déjà commencer à intégrer aussi certaines notions de ChatGPT dans sa vie de tous les jours. Parce que les 2 gars sont super techno. Là. Moi, honnêtement, il faut le dire, là, moi, je suis le navet d'Arcade Québec. Je suis un peu comme l'espèce de dummy qui suit la parade un peu. Mais j'anime, donc ça paraît moins ou peut-être...
Ouais, c'est ça.
J'espère que ça paraît pas tant que ça. Donc, l'idée de base, c'est que... Ils m'ont offert de faire le show avec ChatGPT. Donc, l'idée à la base, c'était de faire un show textuellement monté par ChatGPT. Tu sais que, véritablement, ChatGPT nous fasse un show au complet et qu'on le récite là, comme une pièce de théâtre, OK? On a fait un premier... ça fait peut-être 6 semaines là, qu'on a eu cette idée-là. On a fait une première répétition, entre guillemets, entre nous, et c'était calissement pourri. Là. Okay, je m'excuse pour le calice, là, mais c'était incroyablement pourri. Okay? Ça ressemblait à du théâtre d'été d'étudiants de deuxième année. Là. Tu sais, c'était okay. Horrible. Et je ne dis pas secondaire 2, là, deuxième année. Donc, okay, c'était complètement horrible. On n'est pas bon pour faire ça. Ça n'a aucun rapport. Fait que là, on s'est dit, on laisse-tu aller le projet ou on continue? Tu sais, comment qu'on fait ça? Tu sais? Mais on tenait encore à jouer un peu avec l'intelligence artificielle, tu sais, de faire cette espèce de merge-là, si tu veux, entre le show qui existe déjà depuis un petit bout et l'intelligence artificielle. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, on va se monter chacun un sujet, mais on va le faire monter par la plateforme. Donc, en gros, Guillaume est arrivé avec un débat, entre guillemets. Moi, j'ai fait un sujet plus large, entre guillemets. C'est un sujet un petit peu plus comme on vient de faire là, tu sais, où on parle à 2 personnes. Et Jeff lui était avec un genre de quiz un peu là, assez déjanté. Là, c'est quand même très drôle. Et là, on y a été carrément avec ça. Donc, on s'est laissé carrément bercer par des points de forme de ChatGPT. Donc, en gros, on était la petite bitch là, de ChatGPT. On était vraiment, c'est lui qui monte le show. C'est lui qui monte chacun des sujets. Mais nous, on doit un petit peu comme broder avec ce qu'il nous donne. Tu comprends?
Okay.
Donc, en gros, il y avait quand même notre couleur dedans. S'il nous avait dit de dire quelque chose qu'on n'est pas d'accord avec, on ne l'aurait pas dit. Okay?
Non, ouais,
mais
c'est
il
ça.
Y avait c'était vraiment des points de forme. Donc, en gros, on a un sujet. Exemple mien, c'était la place des jeux indie depuis quelques années dans le jeu vidéo. Donc, est-ce qu'on est pour ou contre? Et est-ce que ça fait évoluer le tout? Et tout? Bon, tu vois, c'est un sujet relativement large. Et là, ChatGPT nous arrivait avec, mettons, bon, moi, j'ai dit, tu as un animateur, qui est moi, avec 2 autres personnes. Et là, il ne faut pas qu'il y ait nécessairement la même idée et tout. Fait qu'on a travaillé le tout, puis on lui a posé des questions. Là. Et il nous est arrivé avec des points de forme. Donc, en gros, mettons, à l'écran, ce que j'avais, et ce qu'on n'avait pas le droit de lire avant, OK, c'était ce que moi, j'allais dire. Mais là, il fallait que pendant que les autres en parlent, moi, je lise ce que j'allais dire après, comprends-tu? Mais okay. En point de forme et non textuellement. Donc, en gros... je pouvais blower un petit peu autour, on pouvait donner une certaine opinion différente à travers, mais en gros, il fallait s'en tenir aux personnage qui nous est imposé. Donc, c'est une expérience qui est assez déplaisante parce qu'au fond, je veux dire, c'est le fun de suivre l'intelligence artificielle, mais des fois, ce qui t'amène, t'aurais pas été nécessairement vers là. Tu me suis? Donc, ouais. T'essaies de broder, tu sais, pour aller vers là. Je pense que l'expérience la plus fun des trois, outre le débat qu'on a eu, le sujet un peu plus ouvert, puis le quiz, là, c'était vraiment le quiz que Jeff a fait qui était le plus drôle. Ou d'ailleurs, en passant, je me fais complètement défoncer. Le quiz, c'était vraiment, au fond, des vraies questions. Donc, un quiz complet que Jeff a fait monter par ChatGPT. Mais là, c'est vraiment nous qui répondons avec nos vraies connaissances. Là, okay? Donc, les réponses ne sont pas prédéfinies. D'ailleurs, je me serais pas fait défoncer comme ça si les réponses avaient été prédéfinies, j'imagine. Okay? Donc, on nous donne, on fait un choix. Et là, il y a des questions qui se... Donc, les questions sont un peu à la géopardie, si tu veux. Là. Donc, on choisit, mettons, une difficulté avec un nombre de points, une récompense, X et Y, et là, on a des questions. On répond, bien sûr, par une question. Et là, je me suis fait avoir complètement, mais tout Jeff nous a confirmé que ça avait pris moins de 7 minutes à monter avec ChatGPT, okay. Avec référence et tout, là, avec référence, OK? Et que toutes les questions, tout était bien monté, tout était fait parfaitement bien, et là, il a pu nous le lancer. Et ça, c'est génial. Pour vrai, là, j'ai trouvé que l'expérience n'était pas nécessairement agréable à faire, je parle en termes de podcasteur, là, OK? Je ne te recommande pas nécessairement en termes qu'animateur, là, mais je crois que pour les auditeurs, ils ont pu... Parce qu'on ne leur a pas dit au début, on ne le dit pas au début que c'était un show monté par ChatGPT, on le dit juste à la fin. Puis je ne crois pas qu'il y ait vu une différence si majeure que ça dans les échanges. T'sais, c'est sûr que dans la formule, c'est complètement nouveau, là. Mais dans les échanges ou dans la façon que, mettons que c'était monté, c'était relativement fluide. Là. Okay. Et, c'est honnêtement, je t'invite à l'écouter et tu m'en reparleras. Là. Mais pour vrai, c'est une expérience que j'ai adoré faire et qu'on va reproduire chez Arcade Québec. Pas toutes les semaines, évidemment. Là. Mais une fois de temps en temps, on va faire monter un petit contenu par ChatGPT ou par une intelligence artificielle au fur et à mesure que ça va évoluer. D'ailleurs, Guillaume m'a déjà présenté quelque chose cet après-midi qui m'a fait vraiment, vraiment rire. Donc, il a mixé. En tout cas, je ne vais pas vous le dire trop, mais grosso modo, petit spoiler, là, il a mixé ma voix avec des écrits. Puis ça fit quand même pas pire. C'est pas parfait, là, mais il me fait dire des choses qui ont aucun. qui n'ont pas d'allure. Là. Fait que okay. On va pouvoir mixer ça un peu dans le show, en mettre un petit peu partout. Fait que je pense qu'on va s'amuser avec ça dans l'avenir. Mais c'était notre première, si tu veux, expérience. Je pense qu'on a. On a ri. Puis on voulait expérimenter avec ça. Donc, est-ce que c'était parfait? Non. Est-ce que c'est agréable à l'écoute? Je le sais pas. Mais chose sûre, c'est qu'on a vraiment trippé à le faire. Puis j'invite les gens à aller le voir. Là, c'est le 387 d'Arcade Québec.
Allez, vérifier ça. C'est disponible sur Spotify puis toutes les bonnes plateformes de podcasting. Ouais. J'ai commencé à l'écouter, mais la journée que j'ai commencé à l'écouter, j'avais du service clientèle à faire à Jump, puis j'ai été tellement occupé que j'ai pas eu le temps de le finir. Je pense que j'ai 10 minutes de fait dans le show. Mais c'est dans il est dans mon Spotify.
Sache que, mettons, toute la section, mettons, de l'ouverture puis le jouer cette semaine n'est pas ChatGPT. Le zéro tout à fait legit normal. C'est quand on arrive au sujet, donc on a trois sujets. Là, ouais. C'est les trois sujets qui sont là. Puis à la fin, là, ce qu'on surveille dans le monde du jeu vidéo, ça non plus, c'est pas ChatGPT. Donc, c'est vraiment les trois sujets seulement qu'on a. On a essayé de faire le reste, là, mais ça ne marchait pas. Là. Donc, on est vraiment arrêté à trois sujets. On a eu du plaisir en le faisant, malgré que. Ben, je pense que Guillaume a moins aimé ça que Jeff et moi le faire. Parce que Guillaume est peut-être plus insécure dans le podcast, peut-être moins. Puis il a fallu live faire des ajustements parce qu'à un certain moment, ChatGPT se répétait un petit peu. T'sais, c'est pas okay. Parfait. Hein?
Ouais, non.
Tu sais, à un moment donné, la question, mettons, on était rendu à la troisième question, la quatrième ressemble pas mal à la première. Fait que là, tu la lis puis tu te dis, OK, là, m'a skippé. On a fait ça là, artificiellement un petit peu. Mais en gros, le contenu que vous allez voir au complet a été monté par ça. Puis tu sais, maintenant, je lance le défi aux auditeurs qui nous connaissent quand même bien. D'aller écouter ça, même ceux qui ne nous connaissent pas, allez l'écouter. Puis, tu sais, dites-vous, mettons, si tu ne le sais pas, là, si ça paraît-tu tant que ça ou pas, tu sais. Je pense que ceux qui nous connaissent bien vont voir que ça paraît. Ceux qui nous connaissent moins bien, je ne suis pas sûr qu'ils vont voir que ça paraît à ce point-là. T'sais, donc, en tout cas, je vais arrêter. Tu pourras m'en parler.
Oh, oui, je vais l'écouter cette semaine, puis je vais t'en reparler. C'est, probablement que c'est ce que je vais écouter demain en travaillant. Là. Mm. Parce que j'ai toujours quelque chose, dans, de la musique ou un podcast dans le fond pendant que je travaille. Fait que j'ai besoin de bruit pour me concentrer. Je fais de même. Là.
Mais dis-toi une chose. Je veux dire, tu sais, on n'est pas payé pour ça. Des fois, on expérimente des affaires, puis ça peut être très mauvais. Tu sais, je veux dire, on en a eu des shows très mauvais, là, puis ça ne me dérange pas de le dire. Puis on en a eu des très bons aussi. Tu sais, je veux dire, fait que. À un moment donné, il faut qu'on ait du fun à le faire, puis je pense que là, on s'est gâté.
C'est ça. Non, c'est un peu le but du podcast, c'est de faire quelque chose que tu vas aimer, puis d'essayer des affaires, je veux dire.
Tout à fait.
Puis les auditeurs embarquent ou embarquent pas pour une émission, ça serait toujours pareil après ça. Mais là, t'aurais du monde qui décrocherait complètement. Mais tu sais, une émission, tu peux tester quelque chose des fois.
Ben oui. Puis on va, puis comme je te dis, on va retester dans l'avenir. Ça, c'est garanti. C'est sûr, ça sera à 100% qu'on reteste. Il y a déjà des choses que les gars. Mais c'est encore une fois, c'est les deux cerveaux derrière, là, c'est pas moi, là, qui vont tester ça et tout. Ils me proposent des choses. J'ai mon droit de veto, là, mais c'est rare que je recule pour une idée qui est niaiseuse, au contraire.
C'est ça, t'aimes un petit peu les choses différentes et déjantées.
Clairement.
C'est bon. Fait que on va finir avec mon dernier sujet. Merci. Comme je te dis, je vais aller l'écouter puis je te donnerai mes commentaires après.
Merci.
Tu pourras juste dire, t'as pas de crédibilité, ça change rien.
Non, mais honnêtement, pour vrai, j'en attends des commentaires. J'en ai eu quelques-uns, j'ai adoré. Je vais en avoir d'autres dans les prochains jours, j'en suis persuadé. Mais les tiens, je les attends avec impatience.
OK. Comme je te dis, je vais écouter ça demain ou mardi max, puis je t'en reparlerai. Parlant de mardi, là, on enregistre le dimanche parce que cette semaine, il n'y avait aucune disponibilité. Fait que, est-ce que mardi, c'était le lancement du livre d'Éric? Hein?
Oui.
365 films en 365 jours, le défilm?
Le défilm, yes.
Puis, est-ce que ton toi du futur t'a appelé pour te dire que tu avais eu du fun?
J'ai eu du fun dans le futur, là, à côté. Non, mais pour vrai, c'est moi qui organise le lancement, OK? Donc, Éric avait beaucoup de choses à gérer ces temps-ci avec le lancement, justement, du livre. Donc, il m'a demandé, peux-tu me donner un coup de main pour faire ce lancement-là, organiser le tout? Tu sais, moi, j'ai des plugs un petit peu partout dans les bars de Québec et tout. Donc, on a choisi la microbrasserie, la Barberie, qui d'ailleurs est ouverte depuis 97. Donc, ça fait un petit bout.
Un petit bout, hein?
C'est ça, moi, je suis un abonné là, de la Barberie depuis toujours. Donc, j'adore cet endroit-là. Ils ont un beau, une belle place, là, t'sais, justement, pour recevoir des groupes. Ils appellent ça la chapelle. En gros, c'est des bancs d'église avec une belle. En tout cas, il y a un beau setup. Là. C'est une belle salle. Pas trop petit, pas trop gros. Juste assez, t'sais, pour recevoir peut-être 20, 25 personnes, 30 personnes. Un peu serré, peut-être à 30, là, mais quand même. Donc, on s'installe sur place. Le plan, c'est de faire un stream sur place pendant, justement, le lancement. D'aller faire des entrevues avec les fans là, qui vont venir nous voir. Remettre les livres aux personnes qui, justement, ont déjà fait des achats au niveau du livre, parce qu'on se rappelle que c'est un projet Kickstarter. Jaser avec le monde et prendre une bière, parce que oui, il y aura des rabais sur la bière. Donc, moi qui regarde mon passé et ou mon futur, dépendamment du où que je me place, là, je me dis que j'ai eu du fun encore, Alice. Parce que ça va être le fun. Ça va
être le fun. Oh, oui, ça va. On réinvitera Eric pour venir parler du lancement, puis toi peut-être en même temps.
Ben oui.
Avoir été là tous les deux, viendrez nous en reparler. Puis...
Super beau projet.
C'est ça. Voir comment ça s'est passé pour le livre, puis s'il y en a de disponibles, si les gens veulent l'acheter, où ça va être disponible. Tout ça. On verra. On réinvitera Eric.
C'est une chose, là, si mettons que quelqu'un écoute le show, peu importe qui est où dans le timeline, OK? Là, mettons qu'il soit dans 2 ans ou aujourd'hui, et qu'il veut une copie du livre, bon, si tu ne sais pas de quoi on parle, va sur Kickstarter, écris 365, tu vas tomber direct dessus, OK? Donc, tu as déjà une belle vidéo avec laquelle on t'explique c'est quoi le projet. Si ça t'intéresse et que tu veux avoir une copie, ben, écris à Arcade Québec ou au Geek Contre-Attaque ou à Éric Lajoie ou à Stéphane Goulet ou à Luc. Et à ce moment-là, on sera en mesure de tout le monde converger et d'envoyer l'information à Éric pour que tu puisses en avoir une copie. Il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit depuis quelques semaines, là, justement, puis je les réfère à Éric, puis ça fonctionne parfaitement bien. Là. Donc, il y a zéro stress. Je veux dire, faites-le, puis il nous reste encore quelques copies à vendre, là, donc n'hésitez pas.
Ouais. Donc, c'est ça. Donc, je suis content de savoir que dans le futur, tu as eu du plaisir. Et je vais parler de mon dernier jeu qui s'appelle Another Fisherman's Tale. Si vous connaissez un peu le VR, vous connaissez sûrement le jeu Fisherman's Tale. Et c'est pour ça que le show est enregistré dimanche et ne va qu'en ligne que jeudi, parce que j'ai un embargo dessus. Fait que l'embargo lève jeudi à midi, notre heure. Donc, ben, le show va être là jeudi en après-midi parce que je veux pas péter l'embargo. J'ai toujours de la misère avec les développeurs qui mettent un embargo sur un jeu pour que les critiques sortent la journée de la sortie du jeu. Parce qu'habituellement, c'est pas bon signe, Redfall.
Ouais, c'est pas gage de confiance, c'est ça.
C'est pas gage de confiance, Redfall. Par contre, je comprends pas pour ce jeu-là, parce que j'ai eu du fun, comme on dit, à côté. C'est le deuxième de la série Fisherman's Tale. C'est fait par un studio français qui s'appelle Inner Space VR, parce que c'est sûr que vu que c'est un studio français, il y a un nom anglais. Hein? Et c'est publié par Vertigo Games. C'est un jeu qui va vous durer environ 7 à 8 heures pour passer à travers l'histoire. Le premier et le deuxième sont totalement différents dans leur mécanique de jeu. Ce que je trouve bien, ça aurait été facile de prendre la même mécanique puis mettre ça dans un autre jeu. On a été complètement ailleurs, puis je trouve ça vraiment cool. Dans le premier Fisherman's Tale, c'est que on jouait un pêcheur. Hein? En français, là, si je le traduis vulgairement, c'est Histoire de pêcheur.
Ou la queue du pêcheur.
Ou la queue du pêcheur, mais c'est l'histoire, c'est une histoire de pêcheur. Un conte de pêcheur. Parce que Tales, c'est plus un conte. Conte de pêcheur. Donc, on joue un pêcheur, mais on joue pas vraiment le pêcheur. On joue la marionnette d'un pêcheur. Fait que le pêcheur, c'est quelqu'un qui crée des marionnettes en bois, des petites figurines en bois, et va créer des modèles, des choses qui sont dans sa vie. Fait qu'il va créer un fort, son bateau, il va mettre des petits personnages dedans et tout ça. Donc, dans le premier jeu, on jouait la marionnette du pêcheur, et le jeu, c'était vraiment, t'avais la marionnette principale qui est grosse, qui est grandeur nature, mettons. Dans le même univers, tu avais une version plus petite de la marionnette avec tout ce qui va avec, le fort, le bateau, la version plus petite. Puis tu avais une version plus grosse, énorme de la même chose. Fait que le premier jeu, c'était de, mettons, tu as une ancre de bateau à bouger, puis l'ancre de bateau est énorme. Fait que tu vas prendre ta main de grosseur normale, tu vas aller bouger l'ancre dans la petite version, tu vas la prendre avec tes doigts, tu vas la sortir, tu vas avoir une énorme main venir chercher l'ancre qui est à ton niveau à toi et la tasser de place. Fait que c'est comme ça qu'on travaillait les puzzles. C'est un jeu de puzzle. Fait que donc, tu vas jouer avec les grosseurs. Fait que t'as besoin, à un moment donné, faut que tu nourrisses un poisson que t'as sauvé, puis il veut manger des sardines. Fait que là, s'il donne des sardines grosseur nature, puis là, il dit « Ouais, j'ai trop faim pour les petites sardines que tu me donnes, je veux vraiment une grosse sardine. » Fait que là, tu prends une sardine, tu la mets dans le petit monde, fait que ça fait une énorme sardine qui apparaît en avant de toi, t'apprends, tu le donnes au poisson, puis là, il est plein. Ça déclenche les prochains événements du jeu. Tu sais, fait que c'est vraiment une mécanique comme ça.
Les perspectives aussi.
Exactement, fait que c'est vraiment cool. Dans le deuxième jeu, on est allé complètement ailleurs. C'est plus un jeu aventure-puzzle. Fait qu'on joue la marionnette, il n'y a plus de perspective dans le jeu. Puis, l'histoire est plus profonde qu'on pense. Au début, ça a l'air niaiseux, ça a l'air juste « OK, il faut que je trouve des puzzles », mais l'histoire va avancer. Fait que t'as vraiment l'histoire d'un père qui est l'humain pêcheur, qui est disparu, il est décédé. Puis, par bout, on va jouer la marionnette, mais par bout, on va jouer sa fille, qui essaie de comprendre ce qui s'est passé avec son père et tout ça. Puis on va jouer dans le fait que sa mère est encore vivante, mais on s'aperçoit en jouant qu'elle souffre probablement d'Alzheimer ou de démence précoce. Elle perd la mémoire. À un moment donné, elle ne sait plus c'est qui sa fille, mais on ne la voit pas. Il parle à travers un petit haut-parleur parce qu'on est dans le sous-sol puis on fait du ménage dans les choses du père qui est décédé. Puis dans notre tête, ou je ne sais pas trop dans quel univers le père nous parle quand même, mais il va nous conter des histoires. Puis quand il va nous conter une histoire, on va jouer la marionnette dans cette histoire-là.
La mémoire un peu peut-être?
Probablement.
Elle se remémore ou des choses comme ça.
Mais on entend vraiment le personnage nous parler. Fait que Bob, qui est le père, va nous parler. Puis il va, tu sais, je pense que la fille s'appelle Mia. Puis, fait qu'on va apprendre comment les parents se sont rencontrés, puis tout ça. Lui, c'est un pêcheur, un peu chasseur de trésors. Sa mère, c'était une pirate, ils se sont rencontrés. Étaient un peu ennemis au début, ont tombé en amour, puis là, tu sais, fait qu'ils ont eu un enfant ensemble, puis tout ça. Fait que tu vas jouer le jeu. De la manière que la mécanique fonctionne, c'est que t'es un personnage en bois, tes mains sont des cordes, donc tu peux lancer ta main droite, lancer ta main gauche, et après ça, la contrôler pour aller résoudre des puzzles. Donc, un peu comme dans la famille Adams, la main qui marche tout seul. Ouais. Bon, ben ta main est attachée après la corde, puis un coup que ta main est lancée, tu peux la faire marcher pour se faire aller à des places. Fait que ramasser des objets, la ramener vers ton corps. L'autre main, aller la faire promener. Fait que des fois, il faut que tu te sers de tes deux mains séparées pour résoudre un puzzle, genre descendre deux manettes pour activer quelque chose. Ou... Fait qu'au lieu d'être deux personnes, tu utilises tes deux mains à des distances vraiment super loin un de l'autre. Les mains restent jamais prises dans des objets. Si tu les ramènes, ils vont toujours revenir. Puis tu peux aussi lancer ta tête sur comme une tablette plus haute pour avoir une vue d'ensemble du niveau. Puis après ça, voir tes mains se promener. Puis là, tu as ton corps aussi que tu peux promener. Fait que des fois, tu as ta main qui est accrochée après quelque chose, ton autre main qui est accrochée après quelque chose, ta tête qui est sur une tablette pour voir tes mains bouger puis voir la vue d'ensemble. Puis là, avec le joystick, tu bouges ton corps pour l'amener ailleurs. Exemple, un moment donné, il y a un puzzle où tu es dans une pièce où c'est des pirates, des statues de pirates. Fait que là, faut résoudre le puzzle de « OK, ce pirate-là, il y a un perroquet sur son épaule. » Fait que là, tu te promènes, tu trouves un perroquet, tu vas le mettre sur son épaule. Après ça, l'autre, il y a telle chose. Puis après ça, il faut que tu actives faut que tu descendes une épée. Puis c'est un peu comme faire prendre la bonne pose au pirate. Fait qu'il y a son épée en bas, il y a un bâton dans tel. Fait qu'il faut que tu le places pareil. Puis ça rouvre une porte. Mais aussitôt que tu lâches l'épée puis le bâton, la porte se referme.
Fait que là, faut que tu amènes ton corps jusqu'à... Okay.
En tenant les choses, faut que tu promènes ton corps. Fait que faut que tu places ta tête pour activer. Faut que tu places la tête sur une des statues. Ça active le fait que la statue n'a pas de tête, c'est toi la tête. Puis tu tiens les deux choses, puis après ça, avec ton joystick, tu promènes ton corps pour le passer l'autre côté de la porte. Puis là, d'un coup, tu ramènes tes mains puis ta tête, puis t'as passé le niveau, tu sais. Fait que c'est toujours de voir qu'est-ce qu'il faut que j'active, où faut que j'aille, trouver des choses. Puis des fois, c'est loin, fait que faut que tu lances ta main, tu fais marcher ta main, tu vas attraper comme... À un moment donné, faut que tu bâtisses un pont avec les planches de ton bateau qui est détruite, mais les planches sont pas nécessairement accessibles ou t'avoies pas. Fait que tu vas lancer ta tête. Ah, la planche est en bas. Tu vas lancer ta main, elle va atterrir. Là, tu vois, tu ramasses la planche, tu la ramènes vers toi, tu ramènes ta tête, tu places la planche. Tu vas chercher la prochaine planche. Ça a l'air simple, ça a l'air niaiseux quand je le dis, mais c'est vraiment cool. L'histoire est profonde, la narration, les personnages, les voix, c'est clairement des Français. Puis le jeu est disponible avec français ou anglais comme langue parlée. Fait que vous pouvez jouer le jeu entièrement en français. La narration est entièrement en français. Tous les personnages. Il y a des sous-titres aussi au cas où que vous ne compreniez pas nécessairement. Il y a toujours des sous-titres. Je pense qu'on peut les activer ou les désactiver. Ou vous pouvez le jouer 100% en anglais aussi. Mais c'est les mêmes voix, c'est les mêmes personnes qui ont parlé en anglais ou en français. Fait que d'une partie à l'autre. Ben, j'ai joué certains niveaux, j'ai joué les deux versions. J'ai joué en français, j'ai joué en anglais pour voir est-ce que c'est les mêmes voix, est-ce qu'on a pris des doubleurs. Mais c'est vraiment les mêmes personnes. C'est vraiment cool, ça prend à peu près 7 à 8 heures. À un moment donné, vous allez avoir différentes choses, différentes mains. Vous allez pouvoir changer vos mains pour un crochet pour vous accrocher au plafond pour pouvoir grimper puis passer d'un autre niveau. À un moment donné, on a une pince de crabe qu'on a puis ça nous sert à couper des cordes pour faire descendre des choses puis activer des affaires. À un moment donné, tu vas avoir une queue de poisson pour être capable de nager dans l'eau puis aller à peu près n'importe où ce que tu veux pour aller chercher des choses pour réparer comme un sous-marin que t'as qui a été brisé. C'est vraiment cool. Les puzzles sont pas nécessairement super compliqués. Un coup que t'as... Tu sais, des fois, les niveaux sont quand même assez grands, mais c'est pas énorme. À un moment donné, tu vas voir plus loin que vraiment tu peux te rendre. On va comme t'empêcher d'aller trop loin pour pas que tu te perdes. Puis que tu sais, on va te garder dans une zone où tes choses sont cachées. On va donner des petits... On va te donner des petits indices comme ton personnage va dire « Ah, ça me prendrait un grappin ou un crochet pour être capable de me passer à la prochaine étape. » Fait que là, tu vas chercher le crochet dans le coin où ce que t'es. ou si à un moment donné, faut que tu montes des corps de pirates, parce que tous les personnages dans cet univers-là sont faits en... c'est des pantins. Quand ils racontent l'histoire, c'est tous des pantins. Fait que t'as un pirate et il manque une main. Ah, va chercher ma main. Ah, va chercher mes jambes. Ah, ramène-moi ma tête. Puis là, faut que t'actives des... Il y a un niveau, là, c'est vraiment quand faut que tu remontes les pirates, t'as un niveau où que faut que tu mettes ta tête après comme une tentacule. Puis là, ça va faire descendre un crochet où ce que tu peux t'accrocher. Quand t'enlèves ta tête de la tentacule, ça remonte le crochet. Fait que là, ça va monter ton corps jusqu'en haut. Puis là, tu vas voir une autre perspective. Ça va dire, OK, le morceau que je cherche est là-bas. Comment je me rends? Mais à force de jouer, ça devient comme, OK, je fais ça comme ça. OK, je fais ça comme ça. C'est pas trop long à comprendre la mécanique du jeu. C'est pas trop complexe non plus pour dire, ah... j'abandonne, je suis pas capable. Pis,
ce que j'aime là-dedans, c'est vraiment que tu peux jouer avec autant, mettons, justement, tes mains, où tu vas manipuler des choses, ou ta perception globale du stage, puis de l'environnement. Ça,
ouais.
C'est cool.
C'est très dessin animé, mais c'est super joli, là, c'est coloré. C'est...
Aujourd'hui, t'as plus besoin d'avoir du photoréalisme. Là. C'est...
Non.
D'ailleurs, en passant, je comprends pas. Tu sais, il y a des jeux qui ça prend du photoréalisme, OK, là, mais... On s'entend-tu que la majorité des jeux, t'en as pas besoin. Il faut que tu me fasses rêver. Là.
C'est ça. Puis ça, c'est vraiment bien. C'est comme je te dis, les environnements sont colorés, puis tu vas regarder partout. Puis je le sais que c'est dessin animé, mais moi, j'ai de la misère avec les hauteurs. Il y a légitimement des moments dans le jeu où il a fallu que je me prenne après un grappin où c'était comme wow, attends un peu. Là. Puis là, c'est comme, fallait que je me rassure. OK, j'ai les pieds à terre, je suis assis dans ma chaise, c'est correct. Tu sais, j'irai pas nulle part. Puis si tu tombes, ton personnage meurt pas. Tu peux pas vraiment mourir dans ce jeu-là non plus. S'il arrive quelque chose, il va te ramener où tu étais avant. Oui, j'ai un moment où j'ai tombé dans quelque chose, puis théoriquement, je serais mort, mais il me ramène juste où j'étais au départ du niveau. Où...
C'est pas grave, hein, c'est ça.
T'as pas trois vies pour passer à travers le jeu. Puis la narration, les personnages, tu vas même si tu passes pas beaucoup de temps avec les personnages, tu vas t'attacher aux personnages, les voix, l'histoire et tout ça. Fait que c'est plus que juste un jeu, tu sais. Les puzzles, c'est faut que tu écoutes un peu l'histoire. Parce que c'est plus profond qu'on pense. C'est une histoire de famille. C'est une histoire de, tu sais, un pêcheur qui cherchait le trésor puis l'aventure et tout ça. Et s'aperçoit qu'au final, la famille, c'est important aussi. Puis qu'il a perdu du temps avec sa fille puis sa femme. Tu sais, c'est plus profond qu'on pense.
En termes de puzzle comme ça, avais-tu joué à What Remains of Edith Finch?
Non.
Non. C'est ça. Ben, joue à ça, pour vrai, parce que c'est pas VR, là, mais ça me fait penser à ce que tu m'expliques. Tu sais, c'est vu en première personne. C'est beaucoup plus vieillot que ce que tu me dis, puis c'est pas nécessairement VR, mais une histoire de famille comme ça, tu sais, dans laquelle il y a des bouleversements. Et il faut vraiment que tu t'impliques dans ce que tu vas voir dans l'environnement et tout ça pour mieux comprendre. J'ai pleuré comme un enfant dans ce jeu-là. Là. C'est un jeu de 2h30 à peu près. Là. What Remains of Edith Finch, pour vrai, là, fais-toi plaisir. Là. Garoche-toi. Là.
C'est disponible sur PC?
Sur PlayStation, je l'ai joué, moi. Donc, Xbox, PlayStation sur PC, pratiquement garanti. Là.
OK, je regarderai ça. Là, mais c'est ça, c'est un jeu, je sais pas. Je sais pas, je vais aller voir rapidement combien ce qui. Je sais même pas si je vais avoir le prix parce que le jeu n'est pas sorti. Si je vois la page du magasin, vous pouvez le précommander. Mais je vois pas de prix. Je peux juste l'ajouter à ma liste de jeux.
Mais pendant ce temps-là, j'ai regardé What Remains of Edith Finch 10 sur 10 sur Steam.
OK, quand
c'est
même.
Ça, donc, et c'est un jeu qui est sorti en 2017, qui est disponible présentement sur PS4, 5, Switch, iOS, Xbox One, PC et Series. Xbox Series. Il a été fait pour Switch en 2019, mais il est sorti initialement en 2017. La première fois que j'ai fait ce jeu-là, pour vrai, je te le dis, là, je suis mort à l'intérieur deux fois.
Okay.
Je suis remords et je suis rené. Tu sais, tu comprends? Tu sais, c'est épouvantable comment c'est dur, mais en même temps, c'est beau. Tu sais. Ça me fait penser un petit peu à ce que tu dis, justement, une histoire de famille très, très, tu sais, dans laquelle tu as des regrets, tu as des choses tough qui se sont passées, mais tu as des beaux moments, super beaux. Tu sais, c'est comme un mix de plein de choses qu'on est venu shaker, là, puis qu'on te garoche ça avec des puzzles, justement. Donc, c'est pour ça que ça me fait penser à ça un petit peu. Là.
Okay. Mais c'est peut-être pas aussi profond que ton histoire dans le jeu-là. Je sais pas, là, comme je l'ai pas joué, mais j'ai trouvé quand même qu'il y avait, tu sais, il y a une histoire en arrière du jeu de puzzle, ce que je trouve intéressant. Là.
Dans What Remains of Edith Finch, là, il y a un bout okay, dans une baignoire, t'es pas prêt à ça. Là. C'est montré comme étant full enfantin, puis quand tu y penses à deux secondes, tu fais comme, d'un point de vue d'adulte, là, c'est rough. Là. Non, pour okay. vrai, c'est raide, là, pour vrai. Okay. Surtout pour un parent, là, ça doit être difficile, pour vrai. Là.
OK, je vais peut-être essayer de me le ramasser. Tu veux l'original, le Fisherman's Tale, est 20,50$ sur Steam. Fait que je m'attends peut-être à un jeu en bas de 30$, 25$ peut-être quand il va sortir. Ouais. Mais là, je vois pas le prix. Là. C'est un autre jeu, ça, Fisherman's Tale, que j'ai eu dans un Humble Bundle. Puis oui, il était dans ma librairie. Mais je l'ai pas joué. Okay. Il était installé sur mon PC tout, mais je l'ai jamais parti. J'ai jamais. Puis là, j'ai comme eu une copie du deuxième pour le tester. Puis là, je vais aller faire le premier, je pense.
Ah oui.
Mais les mécaniques sont pas vraiment toutes pareilles. Là, fait que c'est pas le même jeu, là, qui est intéressant. Fait que c'est ça. Fait que ça sort la journée que le podcast va sortir. Ça sort le 11 mai. Fait que si vous écoutez le podcast puis ça vous intéresse, vous pouvez l'acheter. Steam, PSVR 2, puis Oculus Quest 2, MetaQuest 2. Donc, vous pouvez le jouer sans fil. C'est cool, on va rencontrer des Kraken, puis vous rencontrez des personnages que vous avez rencontrés dans le premier jeu. Fait que le poisson que je parle, que s'il donne une grosse sardine, il est dans le jeu, il va t'aider. T'as un crabe dans le premier jeu, le crabe est dans le deuxième jeu, il va t'aider. Il va te prêter sa pince pour que tu coupes des cordes, c'est le personnage. Fait que si vous avez joué au premier, vous allez reconnaître des personnages dans le deuxième. C'est bien, j'ai eu vraiment, vraiment du fun. Puis je l'ai complété à 100%, lui, j'ai vraiment fini l'histoire. Puis je vous laisse le découvrir si ça vous intéresse, mais j'ai trouvé ça vraiment cool. J'aime la mécanique de jeu puis le gameplay, c'est vraiment intéressant. Fait que c'est ça. Fait qu'on va terminer là-dessus. T'as-tu des choses à rajouter, mon cher Stéphane Goulet d'Arcade
non,
Québec?
Non, honnêtement, non. Franchement, merci pour l'invitation cette semaine. J'espère qu'on va se reprendre. T'sais, en tout cas, tu t'en viens chez Arcade Québec dans pas très long. Tu le sais pas encore, mais tu t'en viens, mon ami. Mais tu t'en viens.
OK. Mais non, je le sais pas. Mais tu le sais, moi, tu me fais signe. Puis à moins que j'ai quelque chose cette journée-là, normalement, je suis disponible.
Yes, on enregistre les mercredis soirs sur Twitch. C'est twitch.tv/arcadeqc. Puis après coup, ben, comme je le dis tout le temps, on sacre ça sur les plateformes de podcasting. Puis on a du fun, dont Spotify. Là, justement, je pense que les gens l'écoutent pas mal toutes sur Spotify présentement. Là, donc, allez donc sur Spotify, ouais. Faites une recherche avec Arcade Québec, puis vous allez nous trouver.
Ouais, je trouve que c'est une belle plateforme pour écouter des podcasts. C'est facile. Il n'y a pas de pub non plus. C'est pas comme si tu écoutes de la musique gratuitement sur Spotify, tu as des annonces comme aux deux chansons. Le podcast, si tu peux écouter des podcasts, puis ils ne sacrent pas des pubs dans le milieu, ce qui est intéressant.
Yes, j'ai eu une demande d'un auditeur dernièrement de nous placer sur Amazon. Je pensais qu'on était déjà sur Amazon, je ne le suis pas. Donc, je vais faire des démarches par rapport à ça, justement, pour envoyer, je ne sais pas si ça s'appelle Audible, je crois.
Oui, Audible, mais je pense qu'ils sont très, très sélectifs, par exemple.
En tout cas, je verrai, je vais faire une démarche, là, je verrai, mais tu sais, en tout cas, pour l'instant, Spotify, sinon, baladoquebec.ca, évidemment, là, tu sais, pour aller nous écouter.
Sinon, iTunes, puis Google.
Oh, oui, bah, c'est ça, le reste, on est là, effectivement.
C'est ça. Bon, ben super, fait que merci d'être venu faire un tour encore une fois cette semaine. J'apprécie vraiment. Tu peux pas savoir à quel point j'apprécie.
Mais ça fait très tellement plaisir. Le plaisir est mutuel, mon ami.
C'est ça, j'allais dire à ma fin. À un moment donné, mec, quelqu'un vient sur mon podcast, je vais dire le plaisir était tout pour toi. Mais c'est pas vrai dans ce cas-là. Le plaisir était pour moi. Donc, merci aux auditeurs d'avoir écouté ça. On est disponible sur toutes les plateformes. Ça me donne rien de plugger le show que vous écoutez. Là. Fait que à un moment donné, c'est comme. C'est ça. Mais nous autres, on n'est pas sur Twitch parce que on respecte vos rétines et vos yeux. On veut les sauvegarder. Donc, moi, je ne mets pas ma grosse face sur Twitch trop souvent. Donc, merci à tous d'avoir écouté cette émission. Puis, on se reparle dans deux semaines pour une autre émission de la réalité augmentée. Bye, tout le monde!